sélections, les différentes représentations dans les prochains mois vont permettre de nourrir cette feuille de route. L'idée, c'est que à l'horizon de l'été 2022, nous puissions présenter cette feuille de route à l'horizon 2035. Alors évidemment, si je dis qu'on va la présenter à l'été 2035, c'est pas pour vous en donner tous les éléments aujourd'hui, parce qu'on ne les connaît pas par définition, si ce n'est qu'au niveau des grands piliers sur cette mobilité, moi j'aimerais insister sur deux éléments majeurs pour nous. C'est évidemment, dans les années à venir, cet horizon 2035, une augmentation de l'offre sur les territoires, ça nous paraît une évidence, pour accompagner d'une part les dynamiques démographiques, les dynamiques économiques sur notre territoire, globalement à l'échelle de toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi évidemment pour, quand il n'y a pas obligatoirement sur tous les territoires les mêmes dynamiques démographiques et économiques, pour aussi aménager au plus près ces territoires. Je pense aux territoires qui sont les moins denses et qui ont pour nous la même importance dans notre approche du développement des mobilités. Donc c'est extrêmement important, cet axe pour nous, développement de l'offre. Et je parle bien de l'offre mobilité, même si évidemment, quand on pense à la région, a priori, même si on va le voir dans les premières présentations, c'est des choses qui évoluent fortement depuis quelques années. On pense a priori offre TER et train, mais qu'il n'y a pas que l'offre TER et train aujourd'hui dans les problématiques, on est bien dans une offre mobilité, une réflexion mobilité sur le territoire. Le deuxième axe extrêmement important pour nous sur ce sujet des mobilités que l'on intégrera comme un axe majeur de notre feuille de route, c'est évidemment l'axe décarbonation, puisque évidemment dans le cadre des accords de Paris, mais aussi pour avoir un territoire extrêmement vertueux sur le sujet. Il nous faut aussi penser mobilité sous l'angle décarbonation. Donc c'est quelque chose sur lequel on va aussi investir dans les prochaines années pour être au rendez-vous. Vous savez que les transports, c'est également un volet important sous cet angle environnemental. Donc ça fait partie aussi des sujets sur lesquels nous allons investir. Donc à partir de ces deux axes, il y en aura évidemment bien d'autres, mais offre et décarbonation, nous allons construire notre feuille de route autour des mobilités et l'enrichir de toutes les réflexions qui sont portées ici ou là, et aussi dans le cadre d'une tournée qu'on va commencer avec les services de l'ensemble des départements pour rencontrer aussi les principaux acteurs département par département pour regarder et analyser les sujets de mobilité sur chacun des territoires dans le cadre de cette nouvelle réglementation et de nouvelle législation, avec évidemment, et on en a bien conscience, il y a les compétences et les cœurs de compétences de la région, mais aussi les sujets, et on en parlera évidemment dans cette région Auvergne sur les sujets. Évidemment, c'est pas notre cœur de compétences, mais on accompagne en particulier l'État dans ses politiques d'amélioration ou de développement. Je pense entre autres, on les réévoquera tout à l'heure, aux lignes par exemple en direction de Paris, où évidemment on n'est pas du tout dans notre cœur de compétences, mais on accompagne financièrement l'État sur cette stratégie-là, parce que ça nous semble important pour le territoire. Donc globalement, ça fait partie des sujets aussi où dans les prochains mois, on aura un travail important, puisque, vous le savez, même si tout cela va être en décalage entre la partie contrat de plan liée aux compétences économie territoriale, etc., le volet mobilité, infrastructure sera, lui, un peu en décalé, puisque ce premier volet, le premier volet du contrat de plan devrait, si tout se passe bien, être signé, on va dire, sur le fin d'année, début d'année prochaine, alors que la partie infrastructure, qui va obligatoirement aussi impacter nos politiques mobilité dans les années à venir, ce volet-là ne sera, lui, que débattu et entériné logiquement dans le deuxième de ce semestre 2022. Je dis logiquement parce qu'évidemment, il ne nous a pas échappé qu'entre le deuxième semestre 2022 et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'événements sur le plan national. Donc je ne sais pas si ça remettra en cause ou pas le calendrier sur le volet infrastructure. En tout cas, nous, On continue de travailler dans cette perspective-là, et c'est évidemment important, important, et les discussions avec l'État pour tout cela. Quand je parle d'augmentation de l'offre, quand je parle d'organisation de la mobilité, les discussions avec l'État sont évidemment permanentes et stratégiques. Un seul exemple, et c'est important pour moi de le dire et de le souligner. Évidemment, dans les années précédentes, et c'était bien logique, et on continuera modestement de le faire, on intervient pour de la sauvegarde des situations d'urgence, par exemple sur certaines lignes de ferroviaires, mais que si on voulait être puriste et dans une logique aussi de développement de notre région, nous devrions plutôt et en priorité concentrer nos moyens sur le développement et non pas sur le rattrapage du retard, puisque le rattrapage du retard sont de la compétence entre autres sur le ferroviaire de l'État, et c'est avant tout à l'État d'investir sur les retards passés si on veut pouvoir consacrer les moyens nécessaires, et on a besoin à l'horizon 2035 de plusieurs milliards d'euros à l'échelle de cette grande région, donc c'est évident que l'on ne pourra pas à la fois rattraper tous les retards si on porte seul et en plus développer l'offre nécessaire à l'accompagnement des mobilités sur notre territoire. Dans l'occasion de cette réunion, pardon, on évoquera évidemment, comme il est de tradition, tous les aspects liés aux principales caractéristiques du service annuel TER 2022, mais aussi les grandes orientations pour 2023. On vous présentera évidemment l'actualité avec l'ensemble des services que je remercie qui sont à mes côtés. Ils se présenteront au fur et à mesure des présentations. Mais présenter l'actualité des mobilités dans leur ensemble, parce que j'évoquais le TER, bien sûr, qui est au cœur de nos compétences. Mais maintenant, il y a toute la problématique du transport scolaire, de l'interurbain. Et puis, les grands sujets aussi de travaux, d'accessibilité et services aux voyageurs. Et puis cette feuille de route que j'évoquais, et on évoquera évidemment les grands sujets à l'étude. On vous les présente là très rapidement sur la slide qui vous est affichée, mais on y reviendra les uns et les autres un peu plus en détail, qui est le sujet de l'étoile ferroviaire clermontoise, le sujet du schéma directeur Lyon-Clermont, la poursuite des opérations d'amélioration de la ligne TER Paris, enfin c'est pas TER d'ailleurs, c'est moi qui n'ai pas le bon papier, l'affichage est bon. TET Paris-Clermont, l'étude de la réouverture des tiers-voies, évidemment, et poursuite du sauvetage des petites lignes en Auvergne. Ça, c'est des sujets, en plus des sujets traditionnels de ce comité de mobilité que nous aurons l'occasion d'aborder. Ce que je vous propose avant de passer sur le plan de la méthode, avant de passer la parole aux différents services compétents sur les différents sujets, c'est qu'on déroulera thématique par thématique, grand point par grand point, et ensuite systématiquement une ouverture et des discussions avec la salle, évidemment, pour échanger, puisque c'est avant tout une réunion d'échange. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et on va passer immédiatement à l'actualité des transports interurbains et scolaires, et c'est une actualité brûlante. Effectivement, la première pour nous dans un aspect, on va dire, consolidé à l'échelle régionale, en fait, sur le transport scolaire. Et pour là aussi un petit mot d'introduction, parce que ça va vous être intéressé. Mais j'aime bien ces deux chiffres parce que ça met aussi en perspective maintenant le poids des mobilités en termes de gestion pour la région. En gros, au niveau TER, nous faisons voyager environ 200 000 personnes par jour, et les transports scolaires, on est environ sur 220 000 maintenant personnes par jour à l'échelle de la région. Donc on voit le poids des transports scolaires aussi dans des problématiques de mobilité pour la région, puisqu'on est à peu près à 20 000 près. On est à peu près à un poids équivalent entre les déplacements TER et les déplacements transport scolaire. À vous, je vous laisse vous présenter.
Oui. Bonjour, Raphaël Genin, je suis la directrice régionale de l'antenne des transports interurbains scolaires du Cantal et du Puy-de-Dôme. Je vais donc vous présenter la partie qui concerne le transport interurbain scolaire. Suite à la loi NOTRe, donc nouvelle organisation des territoires de la République du 7 août 2015, les transports interurbains et les transports scolaires ont été transférés des départements vers la région. Cela s'est fait en région Auvergne-Rhône-Alpes progressivement, avec tout d'abord le transfert des services de transport des départements de Savoie et Haute-Savoie au 1er septembre 2017, Ensuite, on a eu au 1er janvier 2018 la Drôme et l'Ardèche qui sont venus rejoindre ces deux premiers départements. Au 1er janvier 2020, l'Ain et le Cantal. Au 1er septembre 2020, le Puy-de-Dôme. Au 1er janvier 2021, l'Allier, la Loire et la Haute-Loire. Et dernièrement, depuis le 1er septembre, l'Isère nous a rejoints. C'est le plus gros morceau, si je puis me permettre, de toutes les antennes. Alors, le Caluron est particulier puisque c'est le Citral qui gère les transports sur ce périmètre. Donc, la région, en tant que nouvelle autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires, a assuré les actions qui étaient déjà portées par les départements, avec donc la continuité et l'adaptation des services, mais également, il y a un souhait d'harmoniser l'ensemble des règlements régionaux, enfin, ex-départementaux de transport scolaire qui deviendraient, on espère, un règlement régional des transports scolaires. Également une harmonisation des spécifications des contrats. On tend également à engager une harmonisation sur les tarifications et les participations familiales au transport scolaire. Et nous avons également engagé une réflexion sur la reprise en gestion directe des lignes d'autocar TER Auvergne qui rentreraient dans le giron des réseaux de transport interurbain pour la fin 2022. Alors, sur la carte, vous voyez les différents transferts antenne par antenne avec le dernier, l'Isère, en bleu plus foncé. En ce qui concerne la rentrée scolaire qui vient de s'achever, hein, la rentrée derrière nous, maintenant c'était en septembre, c'est la première rentrée qui a été réalisée entièrement sous la compétence régionale, puisque toutes les antennes étaient intégrées à la région. Ça concerne, comme le disait M. Aguilera, 220 000 élèves répartis suivant le schéma que vous voyez à côté, donc avec un gros morceau dans l'Isère, l'un aussi très important, et puis le Puy-de-Dôme, en ce qui concerne l'Auvergne. La rentrée a été marquée notamment par une pénurie de conducteurs. Et sur ce sujet, le président Laurent Wauquiez a écrit à l'ensemble des familles pour expliquer les difficultés qu'elles pourraient rencontrer, que nous rencontrons nous-mêmes avec cette pénurie de chauffeurs. Sur certains points, on a dû... Voilà. Mettre deux véhicules de plus petite catégorie plutôt qu'un gros véhicule, ça c'est un exemple de cette conséquence, de ce désagrément. Concernant l'identité nationale du réseau, petit à petit, on a mis en place un verdissement de la flotte de véhicules. 138 véhicules ont une motorisation avec un carburant alternatif à juin 2021. On a également installé un pelliculage sur les autocars avec une livrée identifiée région que vous pouvez voir sillonner les routes de la région. Donc 2624 véhicules ont ainsi été pelliculés sur 4975 qui sont en service aujourd'hui sur la région. C'est 53% du parc. Également, on déploie petit à petit un équipement en vidéoprotection à l'intérieur des véhicules. Et puis, nous avons procédé également à un renommage de l'ensemble des lignes routières régionales qui ont pris la lettre, quand c'était possible, de la première lettre du département. Donc, pour l'un, vous avez A et le numéro de la ligne. Pour l'Allier, B, etc. Pour le Puy-de-Dôme, c'est P, le Cantal, C. voilà. Les points d'arrêt également. Petit à petit, on essaye de sécuriser l'ensemble des points d'arrêt. Alors, c'est du travail, parce qu'il y a énormément de points d'arrêt sur l'ensemble de la région, hein, puisque c'est 10 territoires différents. Et également, un poteau d'arrêt commun est déployé actuellement petit à petit avec une information accessible aux personnes déficientes cognitives. Également, on a déployé trois types d'abribus en fonction du territoire sur lequel on les installe. tout bois, bois métal et puis tout métal, avec toujours cette couleur reconnaissable de la part de l'usager, qui est le bleu qui va avec la livrée du véhicule. Donc toujours une recherche de lisibilité pour l'usager. Alors après, antenne par antenne sur notre ex-région Auvergne. Dans l'Allier, le réseau est composé de 237 circuits scolaires et 19 lignes régulières. Alors je parle sous contrôle du directeur de l'antenne, Olivier, qui est dans la salle. Si vous avez des questions, vous tournerez vers lui. 22 marchés de transport scolaire ont été renouvelés pour la rentrée 2021 sur l'Allier. Ce qui représente 114 circuits, puisqu'un marché peut être composé de plusieurs circuits. Une mise en place de rotations supplémentaires ont été mises en œuvre pour les lycées Albert-Londres. Alors, les lycées, c'est technique et classique. Hein. C'est pour ça qu'on dit les lycées. Suite à la réforme du baccalauréat, où il y avait besoin de trouver des créneaux, davantage de créneaux pour faire entrer toutes les options. 13 649 élèves sont transportés quotidiennement sur l'Allier. Dont 2752 qui sont domiciliés sur la communauté d'agglomération, les communautés d'agglomération, ce sont des élèves qui sont pris en charge sur les autocars régionaux. 172 élèves en situation de handicap sont également transportés par la région sur le département de l'Allier. Annuellement, sur les lignes interurbaines de l'Allier, ce sont 80 953 validations commerciales que l'on dénombre. Il y a également l'engagement d'une démarche de certification AFNOR-NF 281 de la ligne Montchou-Moulin qui est en cours. Et puis, comme sur l'ensemble des antennes de la région, la reprise en gestion directe des lignes d'autocar TER Auvergne est à l'étude pour fin 2022. En ce qui concerne le Puy-de-Dôme, le réseau du Puy-de-Dôme est composé de 650 circuits scolaires et 25 lignes régulières. Dans le Puy-de-Dôme, c'est l'intégralité des marchés, transports scolaires et lignes régulières qui a été renouvelée à la rentrée 2021 pour une durée de 4 ans. C'est 18 700 élèves qui empruntent quotidiennement les cars région, les réguliers ou scolaires. 2100 élèves relèvent de l'agglomération Pays d'Issoire qui a délégué sa compétence à la région. Tous les mois, sur les lignes régulières car région, c'est 17 340 validations commerciales. Également, au 1er mars 2021, dans l'actualité, une navette a été créée entre la gare SNCF de Rion et la zone industrielle de la Doue, en partenariat avec le SNTC et Rion Limagne des Volcans. Et puis en juillet 2021, on a fait une expérimentation également au départ de la gare routière de Clermont-Ferrand, qui est en centre-ville, jusqu'au site du lac d'Eda, à raison de 2 allers-retours par jour durant l'été pour emmener les touristes, mais aussi permettre aux gens qui habitent autour du lac d'Eda de rejoindre Clermont-Ferrand à la journée. La fréquentation, malgré l'été plutôt mitigé que nous avons eu en termes de météo, était plutôt honorable avec 45 usagers en moyenne par jour. Et puis, comme pour toutes les autres antennes, c'est la reprise en gestion directe à fin 2022 des lignes d'autocar TER qui nous préoccupe aussi.
Juste un mot, c'est vrai que côté Puy-de-Dôme, c'est ainsi, c'est le renouvellement de contrat sur ce département, c'est à peu près là où on a cumuler le plus de problématiques sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes à cette rentrée. Bon, à peu près, tout est rentré dans l'ordre, à peu près maintenant. Petit souci, l'essentiel est rentré dans l'ordre. Mais c'est là où on a vraiment cumulé le plus de problèmes. Alors, on pourrait débattre longtemps sur pourquoi on a cumulé le plus de problèmes dans ce département, mais ça a été, dans certains secteurs du département, même particulièrement chaotique et avec certains opérateurs, d'ailleurs, qui n'ont pas toujours mis de la bonne volonté, parce que installés sur des habitudes ancestrales, qu'on est venu parfois bousculer pour des raisons juridiques, mais voilà, c'est le département, sur les deux départements, où on a connu le plus de problématiques dans toute la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur le Cantal, le réseau est composé de 220 circuits scolaires et 22 lignes régulières, dont 3 services saisonniers. 34 marchés de transport ont été renouvelés en septembre dernier. C'est 5100 élèves qui empruntent quotidiennement les cars des lignes régulières et scolaires. Également, le déploiement du système diétique courant le 1er février 2021. Le système a été mis en place donc, sur les lignes du réseau du Cantal. 12 779 validations commerciales sont dénombrées en moyenne par mois sur les lignes car région du Cantal. Et puis toujours la reprise en gestion directe au fin 2022 des UTE. Enfin, pour la Haute-Loire, la reprise de l'exercice de la compétence est toute récente puisqu'elle date de janvier 2021 avec la création d'une antenne régionale toute neuve aussi avec 6 agents. Une équipe est enfin en depuis mi-août 2021. Je me tourne vers la directrice de l'antenne qui est également dans la salle, si vous avez des questions à poser. Le réseau est composé d'autorités organisatrices de second rang, au nombre de 70, qui assurent la mission avec la région, notamment pour les inscriptions des élèves et puis l'exécution des marchés. C'est environ 10 000 élèves qui empruntent tous les jours les cars région du 43. Et le réseau est composé dans la Haute-Loire de 200 circuits scolaires et 10 lignes régulières, dont une partie est en cours de renouvellement. 68 marchés sont en consultation pour un début de service en février 2022 et 60 autres circuits et 10 lignes régulières sont à relancer pour la rentrée scolaire prochaine 2022-2023. Également, là aussi, une réflexion est en cours sur la reprise en gestion directe des lignes d'autocar TER en fin 2022.
Sur ces transports scolaires, sur la partie transport scolaire, est-ce qu'il y a des interventions? Oui.
Bonjour. Moi, je suis donc conseillère régionale. Monsieur Aguilera, je suis aussi maire d'une petite commune, la Tortelès, dans la montagne, et j'ai encore quelques soucis qui ne sont pas résolus. Et j'ai un petit peu de mal à entendre ce qu'on peut leur répondre, c'est-à-dire qu'un arrêt ne peut pas être créé à moins de 5 enfants, sachant que j'ai des villages où il y a environ 4 ans, donc même si j'avais eu un point d'arrêt, avant que je crée un point d'arrêt à 5 enfants, c'est quasiment impossible. Donc je ne suis pas concernée pour le coup, mais c'est deux communes à côté de chez moi. Et est-ce qu'il est possible qu'il y ait une équipe qui se déplace pour voir ces difficultés? Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on demande aux gens de venir vivre à la campagne, et soyons réalistes, hein, des jeunes qui arrivent, on commence à leur dire « Non, désolé, vos deux enfants, on ne va pas les prendre parce qu'il n'y a pas de point d'arrêt. » J'ai du mal à leur répondre.
Ok, bon, on verra pour qu'une équipe vienne effectivement discuter sur site, et on verra ça tout à l'heure, si vous voulez. Après, le principe pourquoi on, le principe de base est celui-là, c'est qu'en fait, plus vous multipliez les arrêts, plus en fait le trajet est long, plus le trajet est long, plus celui qui est le premier gamin qui monte dans le car se retrouve avec des trajets si on s'arrête tous les partout où il y a un enfant à récupérer ou deux, ce qui fait que vous pouvez vite multiplier par 30, par 1,5, 2, 3 la durée du trajet. C'est vrai qu'il y a des durées qui sont aussi pas raisonnables après au bout d'un moment pour ceux qui rentrent en ligne. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus multiplier trop les arrêts. Mais après, moi j'entends le message, d'ailleurs j'ai oublié de présenter les excuses de Paul Vidal, qui est mon collègue qui suit ça. J'entends aussi le fait qu'il y a certains endroits, bah, si on attend les 5, on n'en aura jamais. Donc il faut trouver un juste équilibre et c'est là qu'il faut une appréciation. Par contre, il faut bien qu'il y ait une règle. Parce que si on n'a pas une règle, à chaque, on va faire du porte-à-porte après.
Oui.
Donc il faut qu'on trouve un juste équilibre entre la règle, le fait qu'il ne faut pas non plus que les trajets soient trop longs parce que ça devient ingérable pour les enfants, même au retour le soir, hein, celui qui est le dernier à descendre du car, si on multiplie par deux la durée du trajet, ça devient ingérable. Donc il y a tous ces équilibres-là à trouver, et puis à intégrer aussi nos problématiques, qui sont des problématiques sur nos départements, qui sont des problématiques très rurales. Et j'entends, donc, oui, on fera un déplacement si nécessaire, on verra ça tout à l'heure, mais pas de problème.
J'ai un deuxième point. La communauté de communes, je suis vraiment pour Valais-Volcan, fait partie des communautés de communes qui ont compris la mobilité et qui en attente une convention. équilibre entre la région et la commune.
Alors, on va en parler tout à l'heure. Il y a effectivement, je crois, alors, la prochaine CP de vendredi prochain, on va être à peu près entre samedi, numérique à peu près, sur les conventions AOMR, sur les 95. Donc ça avance, on va bientôt arriver au bout du conventionnement avec l'ensemble des territoires, mais ça avance progressivement. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on doit être pas loin des 70 maintenant avec la prochaine CB, voire un peu plus sur les 95, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais 70, réseau de... ça n'a rien à voir ça. Ouais, ok. D'autres questions sur les transports scolaires? Oui.
Monsieur Thévenon, la note. C'est une question que la FNOT pose régulièrement. C'est, est-ce que les transports scolaires sont ouverts ou pourraient être ouverts à l'ensemble des voyageurs? Il y a plus de 1000 circuits par jour et plus de 100 000 utilisateurs. Est-ce que cette solution est envisagée sur l'ensemble de la région?
Ça fait partie des sujets d'harmonisation parce qu'il y a des territoires qui avaient déjà précédemment ouvert les lignes, d'autres pas, donc ça fait vraiment partie des sujets d'harmonisation, sachant que ça c'est un avis très personnel, et donc à la question c'est oui, il faut tendre vers ça, c'est une évidence, avec un sujet important quand même quand on l'ouvre au moment des transports, je sais que certains départements nous avaient alertés là-dessus et confrontés, c'est quand on fait rentrer les adultes avec les enfants, c'est pas toujours l'idéal pour certains parents. Je dis pas pour les enfants, mais pour certains parents, il peut y avoir aussi des problématiques de responsabilité ou de choses comme ça. Mais l'objectif est bien celui que vous évoquez, c'est-à-dire de profiter aussi de ce réseau, qui est un maillage extrêmement important, pour demain harmoniser, puisque certains départements à l'échelle de la grande région avaient déjà cette approche-là encadrée, mais elle avait déjà. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter par rapport à ce que je viens d'évoquer, mais il ne faut pas totalement évacuer, même si c'est un effet aussi parfois psychologique de la part des parents, mais de se dire que dans le milieu d'un quart où il n'y a que des gamins, des collégiens, des mineurs, avoir des personnes adultes qui montent, etc. Il y a certains parents qui, des fois, sont pas considèrent que c'est pas un espace totalement sécurisant pour l'enfant. Je le dis sans pour autant valider cette approche des parents, mais il faut l'avoir aussi en tête dans ce qui nous remonte parfois des territoires.
Dans les transports urbains, il y a bien cohabitation entre les élèves et les adultes.
Complètement. Mais quand vous êtes parent, que vous envoyez vos gamins dans les transports urbains, vous savez, entre guillemets, que c'est dans un cadre qui est non sécurisé pour les enfants. Quand vous vous envoyez dans les transports scolaires, dans la tête des parents, le transport scolaire, il est fait pour des scolaires. Il n'est pas fait pour des adultes. Donc, c'est l'approche psychologique. Je le redis, c'est pas que je suis en train de défendre le fait qu'il faut pas ouvrir. Je pense qu'il faut harmoniser et mieux optimiser l'utilisation de ce réseau-là pour les transports au quotidien. Mais il faut pas oublier cette dimension-là qui est pas totalement. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, monsieur, allez-y.
Marc Goutteros, vous m'entendez, collectif des usagers des transports du hôtelier. La Haute-Loire a un réseau de bus interurbains particulièrement pour le chagrin, et je lis d'ailleurs 200 circuits scolaires et 10 lignes régulières pour le département. De plus, l'ouest de la Haute-Loire, c'est-à-dire le Hôtelier par exemple, voit pratiquement aucun bus intercité passer durant des semaines. Il y a quelques bus scolaires que les adultes ne peuvent pas prendre, effectivement, et encore, quand c'est pas un bus par semaine. Par exemple, entre Sog, qui est un chef-lieu, et le Puy. Donc, est-ce que le Conseil régional prévoit, maintenant qu'il a la compétence transport sur la Haute-Loire, d'améliorer un petit peu le service dans une zone qui est vraie de montagne. Oui.
Oui.
Question suivante.
je l'ai dit en introduction, dans cette fameuse feuille de route à l'horizon 2035, je ne dis pas que vous les améliorez qu'en 2035, hein, entre aujourd'hui et 2035, on va y aller par phase. Mais j'ai parlé d'une augmentation de l'offre, donc il faudra qu'on ait une réflexion sur l'augmentation de l'offre. Et quand je parle de l'augmentation de l'offre, on est bien sur une logique à la fois, alors on peut toujours utiliser de la sémantique différente, je ne sais pas si c'est la bonne, mais en fait, c'est celle qui est souvent utilisée en matière de transport. On considère qu'il va falloir une augmentation, une amélioration de l'offre tant dans les territoires denses, donc les grandes métropoles, le cas de la métropole clermontoise, lyonnaise, etc., mais aussi dans les territoires peu denses. Et c'est pas parce que ça peut être ce qui est sous-jacent à votre question, c'est parce qu'on est dans un secteur de montagne qu'on n'a pas le droit à des transports ou à avoir une logique de transport. Quel type de transport, quel type de mobilité, ça c'est des vraies réflexions que l'on devra mener, mais oui, notre logique est bien d'améliorer l'offre de mobilité sur l'ensemble des territoires, quelle que soit leur densité. Donc, vous donnez aujourd'hui un calendrier, une méthode, le détail, j'en serais bien incapable parce que c'est l'objectif de la feuille de route mobilité 2035. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que il faut pas qu'on pense, mais ça c'est, j'enfonce à la fois une porte ouverte et à la fois pour moi c'est une réalité qu'il faut qu'on intègre dans notre approche technique. L'idée c'est pas de dire on développe une ligne par-ci, une ligne par-là, c'est qu'il faut qu'il y ait un réseau cohérent. Et quand je dis un réseau, c'est pas qu'un réseau de bus, de cars ou de TER, c'est que tout ça doit s'imbriquer correctement avec les logiques qui sont un peu bateau et qui sont jamais aussi simples, qui sont faciles à énoncer comme ça, mais qui sont toujours plus complexes à mettre en œuvre, qui sont de dire bah, les dorsales, c'est les lignes de train, et puis après on a les systèmes aussi de rabattement sur les lignes de train, etc., etc. Donc c'est comment on construit ça. Comment on construit ça maintenant qu'on est effectivement, comme vous l'avez dit, en première ligne, que la région est en première ligne, que la région, et on va l'évoquer tout à l'heure, est aussi en première ligne sur l'autorité organisatrice locale. Donc il y a aussi cette cohérence à apporter sur ce maillage fin. Et puis, je ne vais pas développer là, mais pour moi, c'est aussi un sujet extrêmement important des années à venir, et en tout cas un sujet extrêmement important dans ce mandat-là. C'est que vous avez tous entendu parler de l'ouverture à la concurrence des lignes TER, qui est une obligation pour les régions. C'est pas le choix, c'est une obligation, il y a des deadlines, etc. Mais pour moi, il faut pas qu'on raisonne TER ou il faut qu'on raisonne mobilité sur le territoire. Donc pour moi, c'est plutôt demain la manière dont on va non pas spécialement mettre en concurrence ou trouver des opérateurs pour les lignes de train, etc. C'est comment on va trouver des opérateurs pour assurer une bonne mobilité sur les territoires. C'est ça l'objectif. Donc et il faut que l'on le fasse, je le redis, de manière extrêmement évidemment que ce que l'on va proposer et ce que l'on doit construire, ça va être extrêmement différent entre la Haute-Loire et puis la métropole de Lyon. On n'est pas dans les mêmes problématiques de transport, les mêmes problématiques liées aux compétences de la région, etc., etc. Mais oui, donc c'est pour ça que c'était un peu brutal comment je pense que je disais oui. Vous dire, ça serait vous mentir que l'année prochaine, vous pourrez certainement reposer la même question parce qu'on n'aura pas augmenté encore significativement l'offre, mais en tout cas la tendance et la volonté est bien celle-là.
Merci.
Oui, allez-y, allumez votre micro.
Je n'ai pas l'habitude. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Aguilera. Je représente Isabelle Pied-Premier, France Nature Environnement. Je voudrais rebondir sur la remarque de mon voisin concernant l'utilisation des bus scolaires pour l'ouvrir auprès des adultes. Je trouve que c'est une manière pour moi qui est positive dans le sens où elle diminuerait l'empreinte carbone. Vous savez aujourd'hui que, et la région y est très sensible, nous le savons, ainsi que le département, pour, par rapport au réchauffement climatique. Aussi, si vous accepteriez que les adultes participent à la réduction des automobiles, des véhicules personnels en prenant le bus, ce serait autant de gagner pour l'émission de carbone. Excusez-moi, je suis un peu impressionnée. Avec des gens, on serait pensant. je suis
Excusez-moi,
je suis particulièrement sensible au fait que dans le monde rural, les personnes sont isolées, voire semi-rurales pour dire maintenant périurbain. Et quand ils veulent aller en ville, ils sont obligés de faire un numéro où il y a un petit bus mobile qui vient pour les récupérer à telle heure. Pour beaucoup, ces personnes âgées, c'est une contrainte. Parce que ils sont de plus en plus déconnectés avec la modernité, avec le téléphone déjà, et puis avec Internet. Donc, s'ils avaient, comme dans le temps, des bus qui passent à heure régulière, que ce soit le transport scolaire ou autre, je pense que ça leur gagnerait, eux, à rester insérés dans la société, dans ce qui se passe autour d'eux. Et la deuxième possibilité, c'est donc, comme je vous disais, l'empreinte carbone que nous devons réduire au maximum.
Je ne peux que souscrire à votre propos, enfin, une grande partie, en tout cas, des objectifs de votre propos. Je redis, sur les transports scolaires, on est totalement d'accord. Après, avec la limite de l'exercice, qui est de dire que les transports scolaires, c'est par définition le matin et le soir, c'est pas toujours adapté aux besoins à l'instant T, donc ça veut dire qu'il faut un autre service en parallèle, celui que vous avez évoqué et celui qu'on évoquait, c'est à développer aussi des lignes, des transversales un peu régulières, etc., etc. Ça, c'est la première limite à l'exercice. Après, l'autre limite, c'est que par définition, faut pas tout miser sur les transports scolaires, parce que par définition, les transports scolaires, ils circulent que en période scolaire. Donc il faut des transports, je crois qu'on est tous d'accord, il faut améliorer la problématique des transports sur les territoires. Le seul bémol, mais la discussion nous emmènerait bien loin, que je peux apporter à votre propos, c'est que je ne crois pas du tout une seconde dans nos territoires ruraux et entre guillemets dans nos territoires de montagne à la fin de la voiture individuelle. Je n'y crois pas une fraction de seconde. Et c'est pas par contre, moi je suis là pour développer les mobilités, c'est bien toutes les mobilités, et développer les mobilités décarbonées. La question de la voiture individuelle, c'est la question de savoir si demain elle sera plus décarbonée ou moins décarbonée. Après, si des gens et certaines personnes, par rapport à leur lieu d'habitation, on n'aura jamais des lignes de car partout, dans toutes nos vallées, au fin fond de tous nos bourgs, etc., et de croire qu'on va faire un maillage aussi fin pour qu'on puisse, quel que soit nos territoires, abandonner la voiture individuelle, c'est une utopie, je n'y crois pas une fraction de seconde. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit particulièrement souhaitable, même pour le bilan carbone, parce que faire circuler des milliers et des milliers de cars pour aller, si on devait, de manière très utopique, faire un maillage ultra fin, persuadé que le bilan carbone de faire tourner des cars pour aller ramasser dans des hameaux au fin fond partout qui tourneraient en permanence de tous les côtés, même si les motorisations sont pour des motorisations à carbone, ne serait-ce qu'il faut quand même construire, fabriquer les cars qui vont circuler, donc qui est une vraie plus-value par rapport à quelques voitures individuelles ici ou là dans les hameaux. Donc moi je ne suis pas, et ça c'est pas du tout la philosophie de la région, à opposer les modes de mobilité. Notre objectif, c'est la décarbonation des mobilités. Ça, oui. Mais la décarbonation, parfois, elle passe par des voitures individuelles qui seront décarbonées. Parfois, c'est plus pertinent par le car parce qu'il sera décarboné. Parfois, c'est par le train parce qu'il sera décarboné. Mais dire que, par exemple, systématiquement, le train est meilleur en termes de bilan carbone, eh bien, pas systématiquement, le train est parfois, et ça a été démontré dans des rapports de l'ADEME en 2019, le train, quand c'est pas sur des lignes électriques, est parfois, par exemple, mauvais en bilan carbone, parfois très bon. Parce que quand les trains, donc c'est, voilà, enfin c'est pas moi, c'est l'ADEME, hein, donc il faut pas opposer ou considérer qu'il y a un type de mobilité qui est le type de mobilité parfait, c'est plutôt le bouquet d'ensemble et la manière dont on coordonne tout ça et qu'on offre aussi un choix, et au-delà d'un choix, une possibilité pour ceux qui veulent plus prendre la voiture, qu'ils aient à pas trop loin une solution alternative, etc. C'est ça qu'on doit construire, mais pas chercher à opposer tel type de mode de transport à tel type de mode de transport. Donc voilà la philosophie. Donc c'est pour ça que je dis globalement l'objectif, je le partage avec un seul bémol, c'est que on n'est pas là pour construire des mobilités au détriment spécifiquement ou une obsession de faire au détriment d'une autre, mais bien dans une offre, une possibilité d'alternative. Monsieur.
Oui, bonjour. Mickaël Rodillot, mandarin de communauté. Je voudrais revenir sur la ligne estivale Clermont-Ferrand-Hénin. Donc j'ai entendu Madame Genin évoquer le caractère expérimental de la ligne. Je voulais savoir si cette expérimentation allait être reconduite l'année prochaine et les années suivantes. Deuxième question, au regard de la fréquentation journalière moyenne que vous avez évoquée, est-ce que vous avez des éléments de comparaison par rapport à la desserte sur d'autres sites touristiques? Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que les premiers éléments, les premières données de fréquentation sont encourageantes ou inquiétantes? La première question, c'est oui. À la deuxième, je ne sais pas si on a des éléments... Oui, on souhaite le reconduire. C'est une expérimentation qui, pour nous, est pas dans le bon sens. Et donc, il y a une volonté de reconduction sur les éléments. Je ne sais pas si vous en avez ici, sinon on pourrait peut-être en retrouver ou les fournir si vous le souhaitez, mais je ne crois pas qu'on en ait sous la main, sous le coude tout de suite ici.
Non, j'en ai pas
sous le
coude, mais c'est... alors que l'été a été vraiment très mitigé et puis surtout on n'a pas pu communiquer sur cette ligne puisqu'on est en période d'élection et donc pour nous c'est plutôt un bon résultat et en tout cas nos services on propose de le remettre en œuvre.
Pour l'été prochain, il ne devrait pas y avoir de soucis. En tout cas, comme ça a été dit, je crois que quoi qu'il arrive, une mauvaise année pour vraiment évaluer le dispositif. Donc il faut qu'on recommence pour bien évaluer le dispositif. Oui, monsieur.
Oui, donc vous avez parlé de cette feuille de route mobilité, donc avec un objectif d'accroissement de l'offre sur les interurbains.
De l'offre, oui, en général, oui.
De façon générale, voilà. Nous espérons à la FNOT qu'il soit prévu donc une large concertation avec les utilisateurs, avec les usagers pour l'élaboration de ces projets de développement. Et nous souhaiterions savoir donc quel est le type de concertation qui est prévu donc aussi bien avec les collectivités EPCI qu'avec les usagers organisés pour définir donc cette nouvelle offre.
Alors. Il est évident que l'offre en feuille de route à l'horizon 2035, on ne va pas la définir en one shot au mois de juin 2022 pour dire voilà comment l'offre va évoluer d'année en année jusqu'en 2035. C'est complètement illusoire, utopique, etc. Donc on va structurer notre réflexion globalement sur l'architecture de la feuille de route. Il y aura des consultations, nous avons rencontré le président régional et on doit se revoir, etc. Donc les différents organismes sont consultés. J'évoquais tout à l'heure la tournée des départements où j'ai rencontré des élus aussi, des intercommunalités, des parlementaires, etc. pour aussi enrichir la feuille de route. Et l'idée de cette feuille de route, c'est avant tout dans un premier temps d'avoir un cadre et des objectifs. Et évidemment qu'elle va s'enrichir au fur et à mesure. Parler des services, la manière dont on va construire le service, ça va s'enrichir progressivement et s'enrichir aussi des études. On va parler tout à l'heure d'études, par exemple, sur les toile ferroviaire de Clermont, puisqu'on est sur le territoire ex-Auvergne. Il est évident que cette étude ne sera pas terminée au moment d'élaboration de la feuille de route. Pourtant, cette étude est déterminante pour savoir comment on va construire l'offre à l'horizon 2035 sur les toiles ferroviaires de Clermont. Donc, on ne va pas acter dans la feuille de route le fait de dire il y aura X trains de plus ou en moins en direction d'Issoire, etc. C'est pas ça le cadre. C'est par contre de dire il y a une volonté d'augmenter le trafic sur les toiles ferroviaires clermontoises. L'étude qui va durer 18 mois, on en parlait tout à l'heure, va permettre de voir comment on peut améliorer. Est-ce qu'il y a des problématiques d'infrastructure? Est-ce qu'il n'y a pas de problématiques d'infrastructure, etc., etc. Donc, c'est ça que la feuille de route, elle va fixer un cap. Et après, la déclinaison et la manière dont on va après construire, des réunions comme aujourd'hui, c'est aussi dans ces réunions-là où, logiquement, au moins une fois par an, on pourra enrichir et avoir vos retours, puisque vous parliez de consultations permanentes, c'est le rôle des comités de mobilité, après tous les ans, d'enrichir, d'avoir vos retours sur la manière dont on doit construire l'offre. Là, pour 2022, on est un peu court, mais sur les perspectives 2023, enfin, là, on est dans cette construction-là. Donc, c'est évident que dans la feuille de route, rassurez-vous, on ne va pas fixer au millimètre près tous les services TER jusqu'en 2035. Ça, je pense que vous aviez bien compris cet esprit, cette
approche-là. Par contre, on va dans la feuille de route fixer un cap et se dire que, par exemple, sur les toiles ferroviaires, je le redis, clermontoises, il y a une offre qui peut très nettement être augmentée. Quand on dit très nettement être augmentée, c'est arriver ou rapprocher, se rapprocher d'une philosophie de RER, c'est-à-dire avec sur les principales lignes de cette étoile ferroviaire un cadencement plus fort, etc., etc. Donc c'est ça l'objectif de la feuille de route, c'est de fixer un cap. Après, la manière dont on va le décliner, bah, c'est entre autres dans ces réunions annuelles que l'on en discutera. Donc sur le cadre général, les associations seront consultées et on en a parlé avec votre président régional il y a quelques semaines. D'autres questions sur la partie transport scolaire? On attaque sur la partie TER, bilan et perspectives.
Donc, bonjour à tous. Donc Cyril Fils, responsable du service en charge du pilotage des contrats ferroviaires et de la concertation. Donc une petite présentation concernant le TER et les grands chiffres en fait finalement. Donc pour ceux qui participent au comité technique, ce sont des données qui vous commencez à appréhender puisqu'on les présente régulièrement. Donc en l'occurrence un point sur le précédent mandat quelque part, mais un point aussi à date. Donc concernant l'offre TER, donc là on est sur les grands volumes. Il faut savoir qu'on est sur une offre qui globalement est stable en termes de commandes réalisées par la région, avec une particularité qui est que fin 2019 nous avons activé donc le service Léman Express, qui a donc ajouté une brique complémentaire, un saut de volume assez conséquent puisqu'on a ajouté 1,3 million de kilomètres-train aux 33 millions qui constituent le socle de volume d'offres commandées. Donc on vous représente cet élément-là, puisqu'on a eu en 2019 des travaux importants sur la gare de la Part-Dieu, travaux qui sont en voie d'être terminés. Ça a donc eu comme conséquence, on va le voir dans les présentations qui vont suivre, des réadaptations de services, des suppressions aussi de services, notamment sur Lyon-Bourg-en-Bresse, avec des trains qu'on va pouvoir mettre en place à compter de 2022. Donc on a eu moins de volume, mais malgré cet effet négatif, on a recréé des services en plus. Donc ce qui veut dire qu'une fois qu'on va récupérer la gare de la Part-Dieu, on va avoir progressivement une remontée en charge d'un volume au-delà du volume nominal qu'on avait. Donc, c'est ça, c'est pour cristalliser quelque part les efforts qui ont été faits sur l'évolution du service TER depuis plusieurs années. Donc il faut aussi savoir que, bien évidemment, avec la crise Covid, l'an dernier, on a connu une situation exceptionnelle avec 30% des trains qui n'ont pas circulé, un impact que l'on va voir également sur le trafic et les recettes. Et effectivement, le souhait de la région, c'est bien évidemment de poursuivre l'effort qui a été engagé sur le niveau de service et d'étudier, c'est ce qui va être présenté après, des besoins, enfin des services complémentaires pour répondre aux besoins des territoires, quels qu'ils soient. Concernant la fréquentation, donc là aussi, gros volume, on était sur une tendance plutôt haussière du trafic depuis 2016. On a eu malheureusement des événements, les grèves, les mouvements sociaux, les gilets jaunes, qui ont impacté l'usage du train, mais on était plutôt sur une tendance haussière. Et effectivement, patatras, on a eu Covid, donc là, on a eu moins 40% de fréquentation. Donc, cette chute de fréquentation, elle n'est pas anodine, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase de rattrapage, de recalibrage, quelque part, de l'usage des trains. Il y a des nouvelles pratiques, on va en parler juste après. On a effectivement des nouvelles questions qui se posent, le télétravail, usage des trains plus spécifiquement sur certains jours, le mardi, le jeudi, usage différent aussi, parfois des changements de localisation, des habitants qui vont changer de lieu. Donc on a un contexte qui a évolué en termes d'usage des pratiques du train et de la mobilité en général. Donc ce qu'il faut simplement avoir comme données principales, c'est que aujourd'hui, à fin septembre 2021, on était, et on espère que ça va continuer à monter, à 86% du trafic par rapport à septembre 2019. Donc on n'a pas encore récupéré le niveau de trafic qu'on avait précédemment. C'est pas neutre en termes de recettes, notamment en termes de moyens financiers que la région récupère en termes de recettes. C'est pas neutre aussi en termes de logique d'emport. Donc voilà pour quelques éléments macro. Quand on rentre un peu plus dans le détail, on vous a proposé cette courbe, vous allez voir derrière moi, avec effectivement les différents impacts sur le trafic, des mouvements sociaux, des perturbations en fait quand même conséquentes qu'on a connues ces trois dernières années, avec le mouvement social de fin 19, le premier confinement, là pour le coup on a eu plus de circulation, plus de fréquentation, les confinements 2 et 3 qui ont eu leurs propres impacts, et effectivement cette remontée en charge qui se fait. la dynamique du dernier quadrimestre, dernier trimestre de cette année va être extrêmement importante à suivre pour les années à venir, notamment pour dimensionner les besoins et mieux appréhender aussi les nouvelles pratiques de mobilité. Concernant donc les impacts de la crise, plus en détail, là je vais laisser la parole à SNCF puisqu'on se complète dans cette présentation. Donc là je laisse la parole à Sébastien Hervé qui est dans la salle. Donc Sébastien, c'est toi.
Merci. Donc oui, quand on regarde au niveau du trafic TER, ce qui se passe en ciblant en termes de typologie de voyageurs, on a deux grandes typologies de voyageurs, on a les abonnés et puis on a les voyageurs occasionnels. Si on regarde les abonnés, ils ont bien évidemment, tous nos voyageurs ont été impactés par la crise sanitaire, particulièrement nos abonnés. Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, les abonnés représentent 39% du total du trafic de voyage TER. Cette part, elle est en diminution habituellement. Les abonnés, on a entre 45 et 50% des voyageurs TER en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous voyez que c'est en réduction. D'ailleurs, la part des abonnés elle diminue de 37%. Par rapport sur les 9 premiers mois par rapport à 2019. C'était indiqué à l'instant par Cyril, les comportements ont évolué avec cette crise sanitaire et en particulier il y a l'apparition du télétravail pour essayer de mieux cibler les impacts du télétravail. On a mené une enquête au mois de septembre auprès des abonnés pour savoir s'ils pratiquaient ou non du télétravail et si oui, à quelle hauteur. Donc en fait, on a un abonné sur deux aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes qui pratique du télétravail. Et parmi ceux-ci, parmi les 50% qui en pratiquent, il y en a plus de 8 sur 10 qui télétravaillent de 1 à 2 jours maximum par semaine. Donc ça donne déjà l'ordre de grandeur. On veut en profiter aussi pour rappeler que la gamme tarifaire qui existe aujourd'hui, la gamme régionale illico, elle reste encore très pertinente pour tous les abonnés, en particulier les abonnés tout public, parce que c'est souvent les tout publics qui font du télétravail. Et par rapport à la prise en charge employeur, quand on fait 4 déplacements dans le mois, 4 jours, vous voyez que par rapport aux pratiques de télétravail, les voyageurs se déplacent beaucoup plus que ça. Mais quand bien même ils ne se déplaceraient que 4 fois dans le mois, l'abonnement illico, il est tellement intéressant que par rapport à l'usage de la voiture, il reste compétitif. Donc ça, c'est un élément important, même aussi par rapport à l'achat de billets avec des cartes de réduction, comme la carte illico Liberté, qui donne 25% de réduction, ça reste pertinent et attractif et compétitif d'acheter l'abonnement régional illico. Quand on regarde ce qui se passe pour l'autre catégorie de voyageurs, les occasionnels, donc c'est le corollaire, sur les 9 premiers mois, c'est 61% du trafic de TER Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on est aussi en diminution, mais un petit peu moins, dans une moindre proportion que les abonnés. La saison touristique, elle est importante pour notre région. On a beaucoup de sites touristiques remarquables. Quand on regarde les premiers bilans qui sont réalisés, en termes touristiques, on sait que l'année 2020, déjà, il y avait eu un contexte sanitaire difficile, mais le secteur touristique en Auvergne-Rhône-Alpes avait pu tirer son épingle du jeu. C'est aussi le cas cette année, et on a constaté un retour des occasionnels, en particulier cet été. Alors, on avait beaucoup d'opérations commerciales avec des petits prix, avec des promotions sur les cartes de réduction. Et en particulier, la région s'est associée avec l'ensemble des autres régions SNCF pour mettre en place le Pass Jeune TER de France. Le Pass Jeune TER de France, il permet pour 29 euros pendant un mois de se déplacer partout en France avec les TER. Et il était particulièrement plébiscité en Auvergne-Rhône-Alpes. On est la première région de France qui a bénéficié de ce dispositif, puisque un jeune sur 5 en France qui a acheté le Pass Jeune TER en juillet ou en août, était un jeune d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est a été un beau succès. On a aussi eu de beaux succès au niveau des petits prix. Il y a un élément qui est important pour accompagner cette reprise du trafic, une préoccupation qui est maintenant la nôtre depuis pratiquement 18 mois, c'est l'impact de la crise sanitaire. Je voudrais juste rappeler que on a renforcé les mesures de nettoyage de l'ensemble de nos matériels roulants. Donc il y a des opérations beaucoup plus fréquentes de nettoyage des rames. On a bien évidemment, dans nos gares, mis en place des gerfils, des sens de circulation pour sortir ou accéder aux différents espaces de la gare. À l'intérieur, des matériels roulants, l'air est renouvelé toutes les 7 à 9 minutes. Alors ça, c'est les mesures qu'on peut nous mettre en place, mais bien évidemment, chaque voyageur aussi responsable lorsqu'il se déplace en TER. Il n'y a pas besoin du pass sanitaire à bord des TER. En revanche, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les mesures sanitaires.
Merci. Pour poursuivre en termes de résultats, une donnée qui est souvent scrutée avec attention, la donnée de ponctualité des trains en fin de parcours, donc qui fait effectivement partie d'un des objectifs principaux du contrat, la convention TER, c'est l'amélioration de la qualité de service et notamment la circulation des trains à l'heure. Donc en l'occurrence, la tendance est plutôt à l'amélioration avec des résultats globaux, évidemment sur l'ensemble de la région, qui se sont améliorés depuis 2019, 2020. 2020 était particulier parce qu'on mesure la ponctualité que sur les trains qui ont circulé. Donc avec moins de trains au départ, c'est la donnée est finalement un petit peu biaisée. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir l'année 2021 et les statistiques. Et elles sont plutôt bonnes sur cette année. Avec effectivement, à fin septembre, un taux de ponctualité de fin de parcours, donc à 5 minutes 59, qui est une norme nationale. Bien évidemment, j'anticipe les questions qu'on a déjà eues. on est à 93,2%. Ce qui est un taux élevé, on peut toujours faire mieux, mais un taux qui est donc assez, donc qui est en voie de progression, c'est ça, quelque part la donnée à retenir. Mais bien évidemment, c'est une donnée qui est hétérogène, puisqu'on a au niveau de la région, vous avez une cartographie ici des résultats de l'année 2020, qui donne quand même une cartographie de l'hétérogénéité des résultats, avec des lignes, celles qui sont plutôt en rouge-orange, avec des taux de ponctualité de fin de parcours qui sont moindres que la moyenne, et des lignes en vert clair ou vert foncé qui sont soit à la moyenne, soit au-dessus. Donc ça, c'est une vision sur l'année 2020. On a effectivement ces données que l'on suit très attentivement au mois le mois. Par exemple, dernièrement, on a vu que la ligne Lyon-Roanne, la section de ligne Lyon-Roanne, a des statistiques qui sont en diminution. On a des soucis sur Lyon-Roanne. Si vous voulez en parler, on a vu qu'on a depuis quelques mois des difficultés. On sait aussi qu'on a des retards récurrents, et ça c'est pas nouveau sur Lyon-Genève, c'est en voie d'amélioration, mais on reste toujours en dessous de la moyenne. Et également sur les grosses lignes, il y a des gros trains, donc dès qu'il y a un train qui est en retard sur les grosses lignes avec le nœud ferroviaire lyonnais, ça répercute. On a effectivement des zones de retard en cascade, comme on dit, sur des lignes type Lyon-Mâcon ou Lyon-Valence. Donc là, vous avez une vision cartographique qui traduit cette hétérogénéité des résultats. Et bien évidemment, la région suit ça avec attention. Et l'objectif, c'est de tirer donc, les résultats vers le haut avec des process engagés auprès des SNCF Mobilité, SNCF Voyageurs, des SNCF Réseau, qui est aussi présent dans la salle, afin de trouver des voies de progrès, de cibler les points durs, d'apporter des solutions. Tout se fait pas en un jour. On a des sollicitations nombreuses d'usagers qui nous demandent évidemment, qui constatent des difficultés de terrain quand toujours votre train est en retard ou qu'il ne circule pas. Parce qu'il y a toujours la circulation, enfin le train qui n'est pas activé, mais le train qui est en retard, quand on le prend tous les jours, ça énerve. Donc le but du jeu, c'est quelque part de tirer vers le haut les résultats, mais surtout que le service commandé soit produit dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment l'ambition du contrat et de la région sur le service ferroviaire régional. Sur les mains express, puis c'est petit encart en bas à droite, on en parlera plus dans le comité HAC, les résultats de ponctualité sont plutôt bons, voire très bons. C'est un service qui est récent, mais c'est une donnée qui est intéressante aussi. Donc voilà pour le panorama des grandes données. Un dernier point intermédiaire qui va engager la partie suivante, qui va rentrer dans les SA22 et SA23, c'est également les points que vous avez remontés lors des comités techniques, donc les réunions qui sont menées entre les services et les associations sur le territoire auvergne. On a bien noté donc, vos interrogations sur les perspectives de réouverture de la ligne Tiers-Moins, la section ligne Tiers-Moins sur la ligne Clermont-Saint-Étienne. On en parlera juste après. On a également des questions récurrentes sur tout ce qui est besoin de visibilité sur les lignes de la région. On regarde des travaux, des incertitudes sur les financements SNCF Réseau, tout ce qui est plan de relance, on le présente juste après. La question, bien évidemment, du Clermont-Paris, des trains TET. L'autorité organisatrice n'est pas la région, c'est l'État, mais néanmoins, c'est les services qui servent les habitants de la région. On a effectivement des relations étroites avec l'État pour améliorer quelque part le service, c'est bien l'État qui a la manœuvre. Et puis, des questions qui viennent également sur l'amélioration des performances de Clermont-Lyon. Situation plus compliquée, puisque là, on hérite d'une infrastructure qui est limitée.
On essaye effectivement d'améliorer le service en termes de temps de parcours, de politique d'arrêt, d'avancée. Effectivement, l'amélioration du temps de parcours, elle est limitée quelque part à l'existant. Et puis, des questions plus ponctuelles qui ont été posées sur l'usage des vélos et les aménagements en gare. Donc voilà, par rapport aux interrogations qui ont été remontées, on les a analysées, et donc on va vous apporter quelques éléments de réponse dans les slides à venir. Et donc je laisse la parole à Eric Sadio, SNCF Réseau, pour l'aspect SA22 et SA23.
Oui, bonjour à tous, c'est Eric Sadio, donc en charge des dessertes régionales infrastructures et matériel roulant. Alors effectivement, je vais commencer par donner la parole à Blandine Chemel de SNCF Réseau pour présenter la carte des travaux.
Bonjour à tous. Donc, on vient d'afficher la carte des principaux travaux sur 2022. Alors, elle est difficilement lisible, donc je vais la commenter sur les travaux côté Auvergne. Vous avez sur cette carte des pastilles de différentes couleurs qui représentent des chantiers. Les pastilles bleues, ce sont des chantiers qui se déroulent la nuit. Les pastilles rouges, ça représente des travaux qui obligent à une coupure de ligne où il n'y a plus de train qui passe nuit et jour. Et les pastilles jaunes, ce sont des travaux sur les circulations, alors via des coupures journées ou des limitations de vitesse ponctuelles. Donc sur l'Auvergne, je ne vais peut-être pas présenter l'ensemble des travaux, mais vous avez tout en haut, le numéro 1, c'est un des travaux en gare de Moulins, c'est des renouvellements d'appareils de voie, donc sans impact pour les circulations, ce sont des travaux de nuit. Alors, on ne voit pas bien, mais vous avez, c'est des travaux qui ont lieu de la semaine 9 à 32, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails des semaines. La pastille 2, ce sont des travaux qui ont lieu sur la gare de Saint-Germain-les-Fossés. Pareil, ce sont des travaux de nuit qui n'ont pas d'impact sur la circulation et qui concernent des travaux sur une voie, la voie D. Donc cette voie-là sera fermée à Saint-Germain, mais on se débrouille sans pendant la période de travaux. La pastille 3, donc, qui se situe au sud de Saint-Germain, ça va être Alors la pastille 3, c'est reporté. Les travaux n'ont pas lieu sur la pastille 3. On oublie, on passe à la 4. La 4, c'est des travaux qui ont lieu entre Saint-Germain-des-Fossés et Vichy. Donc, ce sont des travaux de remblai. Et cela, ça va occasionner une coupure de ligne, je crois, sur un week-end. C'est un week-end point. C'est ce qu'on appelle les week-ends coup de point. C'est-à-dire qu'on ferme totalement la voie pour massifier les travaux sur deux jours. Alors je regarde parce que comme j'ai pas la même carte, ouais, c'est ça. Et ensuite nous avons des travaux sur Clermont-Ferrand en gare, donc des remplacements de dallos, ça n'a pas d'impact, c'est des travaux de nuit. Ces travaux-là, ce sera de la semaine 29 à 34, donc pas d'impact sur les circulations. Et ensuite on a une série de travaux sur les lignes dans le sud de l'Auvergne, et ça a des impacts puisque ce sont des fermetures de voies totales sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire de la régénération de voies, rétablir le ballast, changer les traverses et les rails. Donc c'est ce qu'on appelle des RRB, le renouvellement rail ballast. Donc vous avez sur les lignes entre Arvant et Aurillac une coupure semaine 11 à 49. Vous avez et la même chose entre Neussargues et Aurillac, il y a la 5 entre Neussargues et Aurillac, Arvant, semaine 11 à 49. On a aussi une coupure sur Brioude Saint-Georges de la semaine 13 à 25. Et une autre coupure plus au sud de Saint-Georges qui durera une semaine de moins, et ça c'est par rapport au chantier entre le Puy et Saint-Georges, puisqu'on a des circulations estivales à partir de mi-juin. Là, ça a été demandé par la région, donc on a réduit les travaux d'une semaine. Donc ça, ce sont les travaux sur l'Auvergne.
Questions sur les travaux ?
Mais en consultant la carte, on voit quand même que les points rouges, il y en a beaucoup en Auvergne. Donc on vit durement donc ces coupures qui sont itératives, par exemple sur l'axe Clermont-Ferrand-Aurillac. ça doit faire maintenant une douzaine d'années qu'on a des interruptions de plusieurs mois, et on se demande quand est-ce que ça va enfin s'arrêter. C'est extrêmement pénalisant pour les usagers de ces régions qui se retrouvent dépourvus de trains pendant des périodes extrêmement longues, et ceci plusieurs années de suite. Donc voilà, on voudrait quand même avoir une visibilité sur le long terme pour savoir quand est-ce qu'enfin on va pouvoir avoir des lignes fiabilisées, utilisables 12 mois par an. Quoi.
Alors, c'est parmi.
Bonjour à tous, Vincent Gillard à SNCF Réseau. En charge donc du projet de régénération de ces lignes dites de desserte fine du territoire. Effectivement, l'année 2022 est particulièrement riche en travaux là dans le sud Auvergne, et c'est vrai que notamment en 2019 par exemple, nous sommes déjà intervenus en cure de ligne de longue durée entre Aurillac et Arvaux. Sur cette section en particulier, on a une ligne qui a fait l'objet de pas mal d'investissements dès les années 2000 avec anciennement le plan rail Auvergne, et on est sur une opération vraiment très importante en 2022, un investissement d'environ 60 millions d'euros qui doit permettre la pérennisation dans le temps de cette ligne. Alors malheureusement, et pour répondre à votre question réellement, ce ne sera pas la dernière opération d'ampleur. Il se trouve que la section fait 104 km de long et que si vous la connaissez bien, vous avez pu voir à quel point elle est riche en ouvrages d'art, en tunnels et autres parois rocheuses. Donc ça demande d'assez nombreux investissements pour les remettre à niveau. Néanmoins, on va quand même passer un cap hein, en 2022 avec cet investissement particulièrement important et qui va notamment permettre de regagner en vitesse hein, sur la section Vic-sur-Serre, le Lioran, et donc regagner un peu de temps aussi dans cette relation Aurillac-Clermont-Ferrand. Donc je pense que sur cette section en particulier, Aurillac-Arvan, on va bientôt le bout du tunnel, on tient bon bout vis-à-vis de cette pérennisation. Mais c'est probablement pas, il est sûr que ce n'est pas la dernière opération qui aura des impacts sur les circulations, même si pour les 2-3 ans à venir, il ne devrait pas y avoir de travaux en cure de ligne sur la régénération de ces sections.
C'est la partie la plus importante, c'est la conclusion par rapport à cette question. Tout est important, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que continue d'y avoir des investissements lourds sur cette ligne est attendu et plus qu'indispensable. Donc a priori, à partir de l'année prochaine, pour répondre directement à la question, il ne devrait plus y avoir de coupure permanente.
Pas pour les années qui viennent.
Comment ?
Pas pour les années qui viennent.
D'accord. Ça répond à votre question.
Oui. Alors, dans le même ordre d'idée, sur la ligne des Cévennes, nous subissons effectivement des travaux et des coupures de 3 mois à 4 mois des fois depuis 12 ans, avec des limitations de vitesse à 40 au plus bas encore actuellement. Est-ce que on va voir enfin le bout du tunnel et voir ces vitesses relevées sur la ligne des Cévennes? C'est un gros problème parce que les études concernant le retour des trains de nuit, par exemple, et notamment du train de nuit Nîmes-Clermont-Paris, butent contre effectivement cet état du réseau qui est très bas et maintenu très bas par SNCF Réseau.
Réponse.
Par rapport au Cévenol, je pense que, et peut-être que la région voudra aller dans ce sens-là aussi, mais on est vraiment sur une ligne où la typologie est différente, hein, comparativement à Aurillac-Arvan dont on parlait juste à l'instant. Le mur d'investissement que représente la remise à niveau du Cévenol pour remettre les vitesses qu'on a pu anciennement connaître et plus prosaïquement pérenniser dans le temps cette infrastructure et donc permettre le maintien des circulations voyageurs, on va dire, à terme, est très important. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a des études préliminaires qui ont été commanditées et qui ont abouti en lien avec la région Occitanie et qui ont donc permis d'avoir à peu près cette estimation de l'ordre de 250 millions d'euros pour pérenniser la ligne. Aujourd'hui, cet objectif financier, ça reste quelque chose qui n'a pas trouvé de solution, il n'y a pas de tracé. Il n'y a pas d'objectif défini. Pour autant, il y a des investissements qui sont consentis par la région, relativement importants déjà, pour le maintien des circulations. Et cela occasionne, comme vous avez pu le mentionner, des coupures chaque année. qui sont donc déjà prévus pour 2022 et 2023.
Oui, ce qu'on peut dire en complément hein, sur la ligne des Cévennes, c'est que c'est bien entendu très différent de la ligne Aurillac-Brive, hein, puisque c'est une ligne interrégionale, avec la plus grosse partie qui se situe quand même en, sud, enfin, en Occitanie, et que sur cette ligne-là, il y a une réflexion spécifique qui est engagée, à laquelle participe notre vice-président avec la région Occitanie, et le préfet Philizot qui gère l'ensemble des petites lignes au niveau national pour le compte de l'État, enfin, qui gère la réflexion, si je peux dire. Voilà, donc il y a des études spécifiques en cours sur l'avenir de cette ligne, même s'il y a des travaux de survie qui, je le souligne d'ailleurs, enfin, vous le savez, ont été financés à 100% par la région. Hein. Ces travaux que vous évoquez qui se succèdent d'année en année sont vraiment des travaux de survie et il y a deux études en cours, notamment avec le CEREMA, sur l'avenir hein, de la desserte voyageur de la ligne des Cévennes.
Ce qui est très clairement un effort anormal de la part de la région. Non pas anormal sur le plan d'aménagement du territoire, mais anormal parce qu'on intervient là où on ne devrait pas intervenir financièrement. Et donc, c'est, je le dis, hein, je l'ai dit au préfet Philizot, nous considérons au niveau régional que c'est un abandon de la part de l'État de ces lignes, qui d'une certaine manière, par cet abandon un peu tacite, c'est-à-dire que c'est à la région de s'en occuper, alors que c'est pas du tout ce qui est inscrit dans les compétences des uns et des autres. Donc c'est un vrai débat.
Si je puis me permettre, effectivement, mais le problème, on est d'accord, bien sûr, c'est un abandon de l'État. Mais quand on regarde ce qui se fait et les investissements régionaux dans les régions voisines, on se dit les régions voisines ont dépassé ce stade, cet aspect-là, et effectivement entraîne, en votant des budgets relativement conséquents, entraîne l'État et dans des budgets vraiment conséquents, en regardant l'Occitanie, par exemple, ou l'Aquitaine.
Je ne partage pas votre point de vue sur l'Occitanie. On discute régulièrement avec mon homologue d'Occitanie. Mm-hmm. Et Occitanie, toutes les réunions sur cette ligne-là, comme le bras, se tiennent avec les deux vice-présidents, donc Occitanie et moi-même, et le préfet Philizot, ils ont exactement le même discours, c'est-à-dire que c'est à l'État de prendre ses responsabilités sur la rénovation de la ligne. Que l'on vienne sur après du développement, du confortement de service, etc., ça c'est autre chose. Mais rattraper les retards, pas plus l'Occitanie que nous sommes enclins à le faire. Il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est extrêmement difficile à dire, et moi je préférerais arriver en étant Père Noël, mais j'allais dire, quand on parle de 250 millions d'euros rien que sur une ligne, prenez que, en fait, voilà, ou alors on se dit, bah voilà, tous les investissements pour les 4 prochaines années de toute l'Auvergne-Rhône-Alpes passent sur cette ligne parce qu'on fait fi que l'État nous abandonne. Où on se dit, à un moment ou à un autre, il faut aussi entamer un bras de fer, et il faut que ce bras de fer il soit collectif, et que tout le monde tire dans le même sens, en disant c'est à l'État, parce que ces lignes sont des lignes d'équilibre du territoire, c'est à l'État avant tout à mettre de l'argent. Voilà, et si on commence à dire, bon, bah, ok, on y va, très bien, mais il y a un moment, tous les investissements qu'on fera là, dans ce cas-là, on ne fait plus aucun autre investissement, mais toutes les régions ont le même discours, hein. Peut-être que ça peut. Sont habillés, les discours sont habillés différemment et sont peut-être un peu moins brutaux que le discours que je tiens là, mais sur le fond, c'est exactement le même discours de toutes les régions, et l'Occitanie n'est pas prêt à payer les carences pendant 45 ans de l'État sur son réseau ferroviaire, pas plus que la région ou la moindre. Oui.
René Cosse, président de l'association des élus pour la défense. Pardon, excusez-moi,
j'ai oublié de mettre le micro. René Cosse, président de l'association des élus pour la défense du Cévenol de la ligne Paris-Clermont-Nîmes. Donc, monsieur le vice-président, merci de nous avoir invités à ce comité. Vous dire que nous échangeons régulièrement, vous-même avec monsieur Gibelin, pour essayer finalement de trouver des solutions pérennes. Donc enfin, on retrouve sur le territoire, sur vos territoires, qui sont des territoires, je dirais, pas Auvergne ni Occitanie, je parlerai du Massif Central. Voilà, ce sont des lignes du Massif Central. Donc on trouve aussi une équité de desserte. Tout à l'heure, une dame me demandait que la desserte scolaire arrive à proximité.
Ce n'est pas de l'égalité qu'on a sur un territoire, parce qu'on a des territoires très ruraux, comme disait notre sénateur qui est décédé, M. Bertrand, des territoires hyper ruraux, et ce qu'on mise à terme, c'est plutôt l'équité, c'est-à-dire quel service adapté doit être offert à nos concitoyens. Au sujet de l'entretien de la ligne, je reviendrai aussi pour mon collègue qui est à mes côtés. Il est vrai que la région Occitanie a investi beaucoup d'argent. Il est vrai aussi que depuis 2018, 2019 et 2020, il y a eu une entente interrégionale pour que des efforts soient faits financiers entre ces deux régions. Ce que nous souhaitons, nous, élus du Sénonol, c'est que cette dynamique perdure. Alors cette dynamique tombe à point, excusez-moi l'expression, parce qu'on vient de renouveler les conseils municipaux il y a un an, viennent d'être renouvelés les départements, les régions, et nous sommes à la veille des présidentielles. Les associations de défense, ou les associations ou les comités divers et variés qui sont sur ces lignes rurales, ont l'opportunité, à la veille des élections présidentielles, d'interroger les candidats sur leur feuille de route. Vous parliez de feuille de route 2035, monsieur le vice-président. Donc c'est aussi le but et la lettre que j'ai adressée à madame Delga et à monsieur Vauquier. Bon, monsieur le président, monsieur le vice-président, vous en avez été destinataire. On l'a élaboré en commun avec Jean-Luc Gibelin. Voilà, donc toutes ces problématiques sont là. N'oublions pas que nous avons affaire à des usagers. Ces usagers qui, face à des grèves successives, des mouvements sociaux. Nous avons dans les Cévennes, dans les événements, les épisodes de Cévenol, donc c'est climatique. On a des interruptions. Et nos usagers deviennent très fatalistes. C'est-à-dire qu'ils se couchent le soir en se disant, ben demain, est-ce que je pourrais aller au travail? Ils ne savent pas. Donc ils se lèvent le matin, ils se disent, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc soyons très pragmatiques les uns et les autres, que ce soit tant les élus au niveau local qu'au niveau départemental, régional, tant la SNCF au niveau réseau que voyageurs, pour essayer de trouver une dynamique qui va nous permettre de dire, nous les élus de territoire, puisque nous avons un mandat jusqu'à 2026, quelles sont les priorités de nos régions, autorités organisatrices de transport, pour que nous puissions aussi renvoyer les mobilités, je dis bien les mobilités, non pas la mobilité, dans nos territoires. Parce que nos territoires sont aussi des... on a des propositions politiques à faire à nos concitoyens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne des points de rabattement, les pôles multimodaux, comment on s'organise le vélo, la voiture électrique. Voilà, je crois que c'est il faut rendre la noblesse à notre action de mobilité. Voilà, je crois que j'ai résumé en gros, monsieur le vice-président, ce qu'on a vu comme échange. Voilà, je voudrais qu'on arrive à rassurer un petit peu les usagers. Merci.
Il faut qu'on... L'idée, c'est... Vous avez raison, il faut rassurer. Après, l'idée, c'est surtout de se dire, il faut qu'on fasse... Je sais que c'est... Il peut paraître, et puis... Il y a des parlementaires, mais il n'y a pas la presse dans la salle. L'idée, c'est pas à un moment ou à un autre. J'ai dit, on est actuellement, il faut être très clair, dans des négociations, et des négociations avec l'État. Si immédiatement les régions, sur des lignes qui, à la base, ne sont pas de sa compétence et sont des lignes, comme vous l'avez évoqué, des grandes lignes d'aménagement du territoire, immédiatement, parce que, évidemment, je veux dire, la pression, et pour reprendre cette expression qu'aime bien le président du Sénat, parce que les élus locaux sont à portée d'engueulade, évidemment, c'est sur les élus locaux que la pression s'exerce beaucoup plus fortement que sur l'État, au sens large du terme, sur ces lignes d'équilibre du territoire. Donc vous nous mettez la pression, dont acte. Est-ce que parce qu'il y a la pression, tout d'un coup, il faut qu'on tienne plus compte des textes, des lois et des principes de répartition des charges entre ce qui doit revenir au contribuable local et ce qui doit revenir au contribuable national? Non. C'est sûr, c'est plus facile, je leur dis, de nous mettre la pression à nous. Donc vous avez raison, il y a des élections nationales qui s'ouvrent, il faut à un moment ou à un autre que tout le monde prenne ses responsabilités sur qu'est-ce que des grandes lignes d'équilibre du territoire, qu'est-ce que l'aménagement du territoire et du massif central en particulier avec ces lignes ferroviaires, est-ce qu'ils souhaitent, est-ce qu'ils ne souhaitent pas, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ben, c'est avant tout, avant du positionnement de la région, avant tout à l'État se positionner. Je suis pas en train de dire que la région, et d'ailleurs on l'a évoqué, hein, les sommes qui ont été mises ces dernières années, elles ont été...
pas que, mais avant tout par les régions. Donc, on prendra un moment ou un autre nos responsabilités. Mais si dès le départ, on commence à dire, bon, bah, abandonnons les négociations, mettons tout de suite le chèque sur la table, l'État n'attend que ça. Je le dis, hein, l'État n'attend que ça. Donc, il y a un moment, c'est à ma responsabilité, c'est la responsabilité du président Wauquiez, c'est la responsabilité des présidents de région, de mettre la pression sur l'État en disant, c'est avant tout votre responsabilité. Il ne faut pas qu'on dédouane tout de suite dans le discours la responsabilité de l'État. Donc voilà, excusez-moi, c'est un peu aussi la stratégie de négociation, mais les sommes en vaut quand même un peu la chandelle, parce que si on met tout de suite, parce qu'on dit à 250 millions d'euros, ah, bas mot, hein. Je pense que dès qu'on va creuser un peu plus, on va être sur des sommes beaucoup plus importantes. Donc à l'échelle, effectivement, c'est pas des petites sommes. Et tout ce que l'on va mettre là, que l'État ne mettra pas, bah, c'est des sommes qu'on ne mettra pas non plus pour le développement du service qu'on évoquait, qu'on a souhaité. On parlait d'augmentation de l'offre tout à l'heure qui est demandée par tout le monde. Bah, toutes les sommes qu'on mettra pour rattraper ce retard lié aux carences de l'État pendant des années et des années, bah, on ne le mettra pas sur le développement de l'offre. Il y a un moment, c'est les sommes, elles sont ce qu'elles sont. Donc voilà, donc, nous, on se doit, pour développer l'offre demain, de se battre sur rappeler les responsabilités des uns et des autres en amont. Voilà. Donc je sais que c'est pas, moi, je préfère arriver dans des réunions et dire, voilà, OK, vous voulez 250 millions, vous mettez 250 millions. C'est toujours plus simple pour un élu local de faire comme ça. Mais ce serait irresponsable de notre part de ne pas rappeler qui doit payer à la base. Madame la parlementaire. Si, mais vous allez pouvoir parler, il y a 5 ou 6 mains qui se sont levées, vous allez pouvoir parler, vous inquiétez pas.
Merci monsieur le vice-président. Donc je suis Laurent Sanselbrand, donc députée de Montluçon. Et alors, même si on n'en a pas abordé dans Montluçon de Paris, j'aimerais malgré tout aborder Montluçon Bourges par exemple, qui est donc de la compétence de la région, puisque c'est le TER hein, finalement qui dessert Montluçon Bourges. Et je vais profiter du coup de la présence également de SNCF Réseau pour. Peut-être que vous aurez des réponses, une réponse peut-être commune à m'apporter. Parce que dans votre propos liminaire, monsieur le vice-président, vous parlez de l'augmentation de l'offre sur le territoire que la région comptait faire, et également pour les territoires les moins denses, ce qui concerne effectivement mon territoire. Voilà, en fait, ma question c'était, même si je sais que l'État justement a versé des capitaux pour l'ingénierie justement sur la ligne Montluçon Paris, malgré tout je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'on pouvait attendre de la part de la région et de SNCF Réseau pour améliorer les conditions de transport aussi bien au niveau du réseau mais aussi du roulant. Donc peut-être ma question arrive un petit peu tôt dans la mesure où votre voisin de droite avait évoqué deux cartes. Là, je vois bien que pour 2022, et de toute façon, je le savais très bien qu'il n'y avait évidemment pas de travaux prévus, mais je voulais savoir si ce qui était prévu peut-être pour les années à venir et est-ce qu'on pouvait compter sur un partenariat sur cette ligne, d'autant que même si c'est pour revenir malgré tout à la ligne Montluçon-Paris, ça peut aussi être un travail de co-construction avec la région Centre-Val-de-Loire, hein, qui s'occuperait de l'autre partie de cette ligne. Voilà. Donc c'est ma question dans un premier temps sur cette ligne donc Montluçon-Paris. Merci.
Je ne sais pas si je dois répondre sur un ton polémique ou si je dois répondre sur un ton extrêmement posé, cher parlementaire, madame la députée. On ne peut pas. L'État a abandonné cette ligne. Et dire maintenant que l'État a abandonné cette ligne, ben débrouillez-vous au niveau des régions. Non. Notre combat, c'est de dire à l'État, réappropriez-vous cette ligne. Et il faut des vrais trains directs entre Montluçon et Paris. Enfin, que le bassin de Montluçon ne soit pas desservi par des trains directs de Paris, et dire maintenant, puisqu'on n'en dessert plus directement ces bassins, ben c'est aux régions de se débrouiller. Non. Même combat. C'est à l'État, et si on abandonne en race campagne tous les combats en disant après bah, c'est au territoire de s'organiser, je pense qu'on fait une erreur stratégique pour nos territoires. Parce que l'État, demain, se
désengagera de tous les territoires. Et puis après, on peut aussi considérer que on met des TER entre Clermont et Nevers, et puis entre Nevers et Paris, c'est d'autres TER, etc. Non, il y a d'un moment à un autre, il faut considérer qu'il y a des lignes qui sont des lignes d'aménagement du territoire, et moi, Montluçon, Paris, ce soit considéré comme des lignes d'aménagement du territoire, et c'est avant tout à l'État d'assumer sa responsabilité. Donc notre action, c'est une action de lobbying et de pression. On a demandé, et ça va être fait dans les prochaines semaines, à ce qu'il y ait le principe, j'ai demandé au préfet de région qui en a acté le principe d'un comité de ligne, même s'il n'y a pas de ligne physiquement parlant, qu'il n'y ait pas de train aujourd'hui direct, etc., mais qu'il y a un vrai comité de ligne qui soit mis en place et convoqué. Alors, ce n'est pas le comité de ligne qui va régler le problème, mais parce que déjà psychologiquement, ça va réaffirmer qu'il faut qu'il y ait cette ligne directe et qu'il y ait une ligne digne de ce nom. Excusez-moi, mais le TER, c'est du train du quotidien. Quand on parle d'aménagement du territoire et de connexion avec Paris, bien qu'on soit sur du train du quotidien, mais c'est un autre débat. Donc, abandonnons pas trop vite ce combat de la liaison avec Paris pour se contenter, entre guillemets, de liaisons avec des ruptures de charges à Bourges, etc., etc. Non, il faut qu'on continue, mais je sais que c'est votre point de vue aussi, donc c'est pour ça que je le fais, on se connaît suffisamment pour que je me permets de vous le dire sur cette manière-là, mais il faut surtout pas que l'on considère que maintenant, basta, c'est plus la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité des régions. Non, ça doit être avant tout la ligne Lyon-Paris, de la responsabilité de l'État. Si on abandonne ce combat, alors dans ce cas-là, arrêtons de parler du Montluçon-Paris. Hein.
Non, mais je suis d'accord avec vous, d'ailleurs je vous rejoins, hein, ça fait effectivement plus de 40 ans, enfin depuis en fait, le tout TGV, que effectivement toutes les lignes du quotidien, enfin il y a 5700 km de lignes, de petites lignes à retravailler, donc je comprends bien que les budgets sont colossaux, donc effectivement il y a eu 40 ans d'avoir de tous les gouvernements, de droite, de gauche, enfin, tout le monde s'y est mis, mais en fait justement pour ne rien faire. Là maintenant, effectivement, comme je le disais, justement, l'État investit, en tout cas dans l'ingénierie pour les années à venir. Et voilà, je me demandais si vous pouvez malgré tout travailler tous de concert, pas que le financement ne repose que sur la région, bien évidemment, mais de faire un travail en concertation. Peut-être qu'on pourrait justement organiser un déplacement et faire en sorte que chacun prenne sa responsabilité au niveau de l'État et au niveau de la région.
D'où la demande et qui a été acceptée par le préfet de région. Maintenant, il faut qu'on pousse pour que ça soit convoqué rapidement d'un principe de création d'un comité de ligne au Montluçon-Paris. Monsieur Derrière, allez-y.
Oui, excusez-moi pour tout à l'heure, je ne vois pas les mains qui se lèvent. Hein. Bernard Lussault, association Vincent des aveugles et malvoyants.
Pas de problème.
Du moment qu'on est dans les travaux, il y a environ 7-8 ans de ça, il y a eu des gros travaux en gare Clermont-Ferrand. Or, depuis ces travaux, les balises sonores, qui sont très importantes, je dis bien très importantes pour les aveugles et les malvoyants, ont été supprimées et pas remises. C'est ça. On a fait plusieurs réunions avec la région, je parle avec la région, le comité de pilotage de la région. Plusieurs réunions, on a fait des visites de gare, on a eu des promesses, hein, des très grandes promesses, et à ce jour, il n'y a toujours rien de fait. On a vu les emplacements, on a tout fait, et il n'y a absolument rien n'a été pris en compte. Alors, il a été fait un coup, c'est le budget, un coup, c'est autre chose. Alors, écoutez, les aveugles et malvoyants, ils en ont un petit peu par-dessus la casquette, hein, d'être menés de réunion en réunion, parce que là, ça commence à bien faire. Le dernier compte rendu qu'il y a eu de la réunion de groupe régional, il n'y a pas si longtemps, on avait un système braille, vous savez, au guichet. Et sur le compte rendu, c'est simple, c'est clair, ça ne sera pas reconduit parce qu'il y a très peu d'aveugles qui se servent du braille. Ça, c'est inadmissible de dire cela. Alors, après, vous voyez, ça s'améliore pas, hein. Au contraire, ça s'aggrave. Parce que sur les TER, il n'y a pas qu'ici, mais on a supprimé les agents d'accompagnement. Et on vous dit, s'il y a un grave problème, vous avez un numéro de téléphone direct pour appeler. Or, essayez d'appeler entre Rion et Randan, il n'y a pas de réseau. C'est simple, hein. Il n'y a pas de réseau. Alors, si vous êtes tout seul et tout, vous faites un réseau ou quoi que ce soit, écoutez, il faut à un moment donné, quand est-ce qu'on va prendre, je dis bien dans le pays antique, quand est-ce qu'on va prendre, à un moment donné, le handicap au sérieux. Parce que, vous savez, ça fait plus de 30 ans que pour les, je parle pour le transport ferroviaire, ça ne s'est pas amélioré, ça s'est aggravé. Je pèse mes mots en disant ça, je suis très bien placé pour le savoir, pas pour mon handicap, mais parce que moi je suis un ancien cheminot et j'ai vu comment ça fonctionnait. Et là maintenant ça fonctionne, c'est vraiment, on régresse.
Vous avez raison de nous interpeller sur cette question. D'ailleurs, ça fait partie des points qu'on va évoquer tout à l'heure hein, sur la mise en place de notre politique d'accompagnement, en particulier de Gares et Connexions, sur la mise aux normes des gares, etc., et toute notre stratégie autour du handicap. Donc, on pourra, d'une part, rappeler les montants d'investissement, les investissements en cours, qui sont peut-être insuffisants, peut-être que ça va pas assez vite. Hein. Moi, j'entends, et vous avez raison, de nous rappeler à l'ordre sur tous ces sujets-là, et on peut répondre, mais par anticipation de cette présentation tout à l'heure, on peut peut-être répondre déjà précisément sur l'aspect gare de Clermont, là, sur le point qui a été évoqué.
Bonjour Monsieur Lusseau, Castanier, direction des mobilités. Effectivement, c'était le printemps avec la vice-présidente Mme Chex pour évoquer cette problématique. Alors sachez que c'est toujours en cours, en fait. Enfin, il y a une étude sur le déploiement des balises sonores qui est en cours. Bon, c'est à l'échelle régionale d'Alpes, donc on étudie l'ensemble des biens. Et c'est vrai qu'il va falloir planifier un peu ce déploiement. Donc enfin, soyez rassurés en tout cas sur la volonté de la région de mener bien ce chantier.
Excusez-moi, c'est la réponse qu'on a fait très souvent. On est à l'étude, c'est à l'étude. Dernièrement, la visite des gares, vous étiez là, la visite des gares, c'était presque fait, puisqu'on a même défini les emplacements, et puis voilà, bon, il n'y a rien qui avance. Moi, je veux bien entendre, tout entendre, mais arrêtons à un moment donné de nous mener en bateau. Voilà. Ça commence à être pénible.
Ok, bon, moi, c'est pas un dossier, mais c'est ma collègue Sandrine Chex, effectivement, qui est vice-présidente suisse à particulièrement. On peut reparler de ce chapitre-là, en particulier des balises sonores. Par contre, moi, non, mais il n'y a pas que ça, peut-être, et vous avez raison. Alors, moi, ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, c'est que vous dites que ça n'avance pas. Donc, moi, la question que je pose, c'est les dizaines de millions d'euros qu'on injecte tous les ans, ils sont peut-être insuffisants, il faut peut-être en injecter 10 fois plus, mais on injecte quand même des millions d'euros tous les ans sur cette thématique-là auprès de, entre autres, de pas que, mais de Gares et Connexions. Donc c'est peut-être insuffisant, on fait partie des territoires d'ailleurs qui injectons le plus régulièrement et le plus au niveau de nos gares sur cette thématique-là, parce que c'est une thématique prioritaire. Donc dire qu'il n'y a aucun des sujets qui avancent sur le handicap, avec tout le respect que je vous dois, non, il y a des sujets qui avancent véritablement, l'accessibilité des quais, la création des ascenseurs, etc., etc. Il y a plein de sujets extrêmement lourds financièrement qui ont avancé. Pas assez rapidement, ça va jamais sur cette thématique-là assez rapidement. Mais dire qu'il n'y a rien de fait, je ne peux pas par contre laisser dire cela, parce que c'est d'abord de l'argent du contribuable qui a été injecté massivement dans les gares pour les mettre aux normes et continuer de les mettre aux normes. Donc il y a encore des sujets effectivement où on a un retard, oui, c'est pas un retard admissible, je l'entends, il faut qu'on accélère sur cette histoire de bornes, et moi, je veux bien en reparler et qu'on regarde précisément et qu'on vous fasse passer un calendrier précis et qu'on ait des éléments précis sur le calendrier de déploiement et pas le calendrier d'études, donc on pourra vous faire passer des éléments précis pour répondre à votre question que vous aviez déjà posée a priori au printemps. Mais par contre, faites-nous voir quand même que sur des sujets d'accessibilité des gares, et ne serait-ce qu'il suffit d'aller à un certain nombre de gares pour voir le nombre d'ascenseurs qui ont été installés, etc., etc., le sujet d'accessibilité avance, peut-être pas assez vite. Peut-être insuffisamment sur certains types de handicap, etc. Ça, je l'entends et j'accepte le reproche. Mais très franchement, quand on regarde et quand on se compare, parce que tout à l'heure, on se comparait à d'autres régions, quand on se compare à d'autres régions, est-ce que l'on injecte dans les gares sur la thématique du handicap, on n'a pas à rougir de ce que l'on injecte, même si on devrait peut-être injecter 3 fois plus pour ça et 3 fois plus vite.
Oui, excusez-moi. Oui, il y a eu des ascenseurs. On reconnaît qu'il y a eu des ascenseurs de mise en place et tout ça, que ce soit rien de mieux. Mais il aurait fallu, moi je pense qu'à chaque fois que ça on le fait, que ça soit à la SNCF, on le fait très rarement, c'est-à-dire de s'entourer au préalable des personnes concernées. Essayez de prendre un ascenseur quand vous êtes aveugle ou malvoyant. La dernière fois quand on a fait la visite des gares en pile ascenseur, on a fait 3 allers-retours parce qu'on ne trouvait pas les boutons d'appel.
Non, mais que ce soit imparfait, je m'entends.
Voilà,
j'entends,
non, mais ça, je vais pas. C'est ça, je veux dire pas qu'il y a pas qu'à les essais, parce que c'est comme ça. Mm. Et, voilà, donc.
Croyez bien pour nous, même si.
Il faut travailler en amont avec les associations.
Vous avez raison. Et croyez bien, en tout cas, que pour nous, que ça l'était dans le mandat précédent, mais ça reste dans ce mandat-là, et on l'évoquera peut-être tout à l'heure sur d'autres sujets, d'ailleurs, sur le handicap, ça reste un sujet extrêmement prioritaire pour la région, que cette mise en accessibilité des gares, même si j'entends bien, vous avez raison de nous rappeler alors, ça reste insatisfaisant aujourd'hui. Oui, monsieur.
Daniel Coffin, Codérail, Montluçon. Moi, je suis ravi de vous entendre dire qu'il faut remettre sur pied le Montluçon-Paris direct. C'est une chose tout à fait essentielle, mais je crois qu'avec Madame la députée, vous ne parliez pas tout à fait de la même chose. Vous parliez de la desserte. Or, Madame la députée parlait de l'infrastructure. Pour ce qui concerne l'infrastructure, Montluçon-Bourges a été jugé faisant partie d'une ligne structurante qui a été reprise par SNCF Réseau. SNCF Réseau pourra peut-être confirmer mon affirmation. Donc, il s'agit bien de l'investissement nécessaire de l'État. Mais avant que SNCF Réseau, notamment dans le cadre du prochain contrat de plan, puisse faire des travaux nécessaires, il va falloir épurer ce qui a été prévu déjà dans le contrat de plan 2015-2020, prolongé jusqu'en 2022.
Dans le cadre du plan de relance. En
fait. Dans le cadre du plan de relance, exactement. Donc il va falloir que ça se termine, parce que pour avoir rencontré votre homologue de Centre-Val de Loire, qui nous a déclaré mi-octobre, il avait de sérieuses inquiétudes sur cette ligne, tout simplement parce que l'état de la voie était vraiment très mauvais. Par exemple, il y aura une première tranche de travaux, lorsque les travaux de l'actuel contrat de plan seront terminés, de 22 millions d'euros en 2023, et une deuxième tranche de 30 millions d'euros en 2024. Mais ces sommes-là ne sont pas financées. Elles ne sont pas financées parce que les travaux n'ont pas été terminés. Et le risque qu'il y a, c'est d'avoir, sur le trajet Montluçon-Paris, une augmentation du temps de trajet de 27 minutes en 2024 et une augmentation de 57 minutes en 2025. Sachant que nous faisions Montluçon-Paris en 2h53 en 1991 et qu'aujourd'hui il nous faut 3h45 quand tout va bien. S'il faut aujourd'hui, en 2024, 4h30, pensez bien que c'est tout à fait inacceptable. Vous avez évoqué l'arrivée des nouveaux opérateurs, ça ne changera en rien l'état du réseau, qui souffre depuis des dizaines d'années, oui, vous avez cité 40 ans peut-être plus, de sous-investissement. Ce sous-investissement, il était dû, on nous l'a dit pendant des années, il était dû à la construction des lignes TGV. Alors quand j'entends le président de la République dire qu'on va relancer 5 lignes TGV, Bordeaux-Toulouse, pardon.
Vous avez une annonce à faire.
Normandie, Roissy-Picardie. Et si la construction de ces lignes se fait au détriment de l'entretien et de la modernisation du réseau classique, là, cette fois-ci, ça ne va plus du tout. C'est pour ça qu'en fin de compte, je crois que l'État a répondu. Vous a répondu tout à l'heure, vous posiez la question. À partir du moment où on relance les lignes TGV, il va bien falloir s'occuper du réseau classique. Et il est sans doute hors de question que ce soit les régions qui le prennent, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Et puis en plus, il se trouve qu'elles ne sont pas toujours d'accord. Vous l'avez peut-être constaté, enfin nous à Montluçon, on le constate, que les régions ne sont pas toujours d'accord, si bien que certaines veulent s'occuper du réseau plus au sud, d'autres plus au nord, d'autres plus à l'ouest, d'autres plus à l'ouest. Enfin bref, on n'en sort pas. Toujours est-il que Montluçon, nous sommes au centre. Et qu'il s'agisse de l'itinéraire nord, de l'itinéraire sud, ouest et est avec Bordeaux-Lyon, nous sommes quand même, depuis des années, vraiment une région complètement sinistrée. Donc, il y aura aussi, j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais on ne va pas le faire ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole, mais tout à l'heure, l'intervenant précédent a évoqué l'accès en gare, les ascenseurs. Je voudrais bien savoir, pour ce qui concerne le PEI de Montluçon, qui est l'Arlésienne, puisqu'il était prévu, les travaux étaient prévus en gare de Montluçon en 2018, nous sommes bien entendu en 2022, rien n'est commencé, on réfléchit toujours, c'est inimaginable parce que la réflexion peut durer longtemps chez nous, Donc il y a vraiment un gros problème là-bas. Et puis une question toute simple. Pourquoi les guichets de la gare de Montluçon ne sont pas ouverts au moment des trams? Imaginez un commerçant qui n'ouvrirait que la nuit, il est certain que son chiffre d'affaires va baisser considérablement. Merci.
Il y a une question qui vous était adressée pour les guichets.
Donc oui, pour les guichets, juste rappeler quelques chiffres. Les guichets, c'est un des canaux de distribution qui existe. C'est pas le majoritaire. Sur Terre-Verne-Rhône-Alpes, on a plus de 6 billets sur 10 qui sont achetés en digital. Oui. Et donc, c'est un mouvement de fond, hein, le digital, il n'y a que SNCF. Et du coup, eh bien, on ne peut pas maintenir les guichets ouverts de 5h du matin à 22h, parce qu'on ne vend pas assez de billets, en fait. On rend un service public et on doit être aussi garant du service rendu et du coût du service. Donc on a d'autres solutions de distribution et qui sont aujourd'hui majoritairement utilisées et ce ne sont pas les guichets.
Je suis sûr que la réponse n'est pas satisfaisante pour vous, mais c'est la réponse.
Non, parce qu'il y a d'autres localités en Auvergne où les guichets sont ouverts depuis 5h du matin jusqu'à 20h le soir. Pour aucun volet, par exemple, mais ça n'a aucune...
Ils ouvrent à 7h40,
ils ouvrent à 7h40 et puis ils ferment à 19h. Donc vous voyez, c'est
pas... Pour aucun 7h40, 19h.
Oui. Le Puy-en-Velay, effectivement, ils sont ouverts un petit peu avant, c'est l'exception. Effectivement, on a quelques gares dans ce cas-là, mais vraiment, les commerçants ouverts, nous on est ouverts quand même 7 jours sur 7, hein. Vous voyez, il y a 12 heures quasiment de possibilité d'achat au guichet de Montluçon, donc c'est quand même pas dire que le service n'existe pas, on ne couvre pas tous les trains, mais une majorité des trains sont quand même couverts, et pour les autres cas, on a aussi d'autres solutions de distribution.
Les deux trains les plus fréquentés le matin à Montluçon, monsieur, c'est la direction Clermont-Ferrand et la direction Paris. Il est curieux que les guichets soient fermés à ce moment-là.
Alors, je vais vous répondre. Sur la direction Clermont-Ferrand, on a pas mal d'abonnés. Et vous savez comme moi que les abonnés, ben, ils achètent leur abonnement une fois par mois. Donc, ils n'ont pas forcément besoin du guichet tous les jours. D'ailleurs, ils utilisent souvent les automates. Et ceux qui préparent leur déplacement, qui ont fait des déplacements de longue distance pour aller à Paris... En règle générale, on ne le décide pas. À la dernière minute, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et nos voyageurs qui font ces trajets longue distance, ils ont acheté souvent leur type de transport par anticipation. Je ne dis pas qu'on n'a pas quelques-uns. Et effectivement, pour ceci, on a aussi, en complément des guichets, les automates qui sont disponibles en gare de Montluçon.
Débat de fond. Un vrai débat de fond. Oui, allez-y, monsieur, question. Puis on en reviendra peut-être après aux questions sur les travaux, travaux sur les voies.
Oui, Christophe Marquesi, conseiller au Césaire. Je prends souvent donc le train puisque j'ai le Clermont, le TER pour aller à Lyon, RH. Et je suis quand même assez étonné que souvent le direct qui existait il y a quelques années n'y est plus, c'est-à-dire Clermont par Dieu. Clermont-Pardieu-PRH.
Ah, le direct, sans arrêt en gare.
Sans arrêt en gare de...
En gare de Rion, en gare de Vichy.
Oui, très belle commune. J'adore Vichy, il n'y a pas de problème, mon frère. Mais ce qui m'inquiète, c'est justement c'est ce qui me permettait de pouvoir aménager mon agenda beaucoup plus facilement. Bon, mais ce qui m'inquiète plus, c'est l'absence de numérique. Puisqu'on ne peut plus travailler à partir de Rouen, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de réseau. On ne peut même pas téléphoner. Donc. Et souvent aussi, dans les rames, il n'y a pas de courant. Vous avez les prises, mais il n'y a pas de courant. C'est une prise qui ne sert à rien. Et quand vous n'avez pas de musique, bien sûr, vous n'avez plus des applications qui permettent de travailler. Donc, c'est 2h35 pour aller... à Lyon. Il faut 1h38, 1h40 en voiture. Je suis désolé, à quelque part. Et pour le retour, souvent l'après-midi, nous avons droit à des vieux corails, crasseux, c'est pas votre mot, usés, qui sentent mauvais, qui sont pas propres, et c'est vraiment désagréable, même quand vous payez un billet en première classe.
je sais pas, on n'a pas la même définition de la première classe.
Alors déjà, merci beaucoup de poser la problématique de cette ligne, parce que je trouve que c'est une ligne dont on ne parle pas assez. D'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure avec la réflexion sur un schéma directeur de cette ligne. Je ne sais pas s'il y a des réponses à apporter sur le côté crasseux et sur les autres aspects. Sur la ligne directe, c'est un vaste débat. Là où vous avez raison, c'est que globalement, et c'est pour ça qu'on veut mettre en place un schéma directeur, mais je vais vous donner la parole, on veut mettre en place un schéma directeur, c'est que oui, si on veut que dans l'avenir cette ligne soit un peu plus compétitive, il faut qu'on se réinterroge sur l'avenir de cette ligne. Pas obligatoirement à 2 ans, hein, très clairement, vu les investissements qui nous seront certainement annoncés à la fin des études, etc. Mais qu'on se réinterroge vraiment sur la durée, sur l'avenir de cette ligne. Est-ce qu'on veut la pérenniser avec une vraie performance et un vrai intérêt pour tous les bassins desservis, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu. Et pour moi, c'est pareil, inconcevable aujourd'hui que la connexion entre Clermont-Ferrand et la capitale régionale soit aussi peu qualitative. Une fois qu'on a dit ça, on sait très bien que ça va être des investissements très lourds. Après, mon avis extrêmement personnel, c'est un peu comme ça la ligne de Paris. C'est bien beau de vouloir arrêter les arrêts intermédiaires, supprimer les arrêts intermédiaires. Comme sur la ligne de Paris, je rappelle simplement que la moitié des voyageurs montent dans les arrêts intermédiaires. Donc il faut pas négliger non plus, et entre autres pour une raison assez simple, c'est que même pour les gens du bassin clermontois, venir dans le centre de Clermont, c'est pas obligatoirement toujours l'idéal pour aller prendre le train, et que beaucoup de Clermontois même vont prendre le train à Rion, etc. Donc faisons attention, même pour le bassin clermontois, alors à part desservir effectivement et avoir un intérêt pour ceux qui habitent Place de Jaude, pour les autres, très sincèrement, c'est assez limitatif de supprimer les intermédiaires.
Je partage votre avis, mais si on pouvait aller plus vite entre les...
Ça, mais on est d'accord sur l'objectif.
Si on fait les retards à cause de Attard, il manque les feux sont en panne. Ouais.
Alors, a priori, encore une question, et puis je vous donnerai la parole pour répondre sur la partie Lyon, mais comme a priori, il y a une question toujours sur cette thématique-là, donc ça vous ouvre la réponse.
Non, simplement pour en rajouter, je suis Marc Saumuro, je suis au titre du Césaire également. C'est vrai que se pose pas forcément un problème de la ligne directe, mais se pose le problème de l'accessibilité à Lyon et ne pas être obligé de quitter les réunions avant la fin de la réunion parce qu'on n'a pas de train après. Donc il y a vraiment une réflexion à mener sur cette ligne qui n'est pas simplement une ligne Lyon-Clermont, mais qui est vraiment une transversale sur laquelle il faudrait véritablement qu'on ait une réflexion un peu plus approfondie.
D'où le schéma qu'on va évoquer tout à l'heure, et moi je rajouterai même une question, parce que le matin, la ligne qui met 2h18, c'est pas admissible, parce qu'on s'arrête pendant 15 minutes en gare de Pardieu pour aller à Perrache, et ça, je trouve ça hallucinant.
Alors je vais vous répondre, et c'est une ligne que j'utilise aussi très régulièrement, vous saurez tout, moi j'habite à Vichy et je travaille à Lyon, donc c'est une ligne que je connais bien, comme vous. Alors le train direct, pour répondre à monsieur, le train direct il circule toujours, le matin au départ de Clermont et le soir au départ de Lyon, donc c'est 7h au départ de Clermont et puis 19h27 au départ de Pardieu. Pour ce qui est du matériel roulant, je ne pense pas que ce soit au TER que vous faisiez référence, parce qu'ils ne sont pas en rame corail. C'est des automoteurs d'ailleurs qui permettent d'avoir de meilleures performances, même si les temps de parcours sont toujours trop longs. On partage avec vous cette difficulté. Donc voilà, le matériel TER, en tout cas, le matériel régional, c'est bien du matériel automoteur. C'est des AGC de 240 places et on n'a pas de rame corail sur cette relation. Alors, c'est pas des TER, c'est des trains. Il y a d'autres trains qui passent sur la ligne, vous avez raison, d'équilibre du territoire. Il y en a qui sont aussi en automoteur, mais pas tous. Et donc, voilà, ça, c'est après un autre sujet. La connectivité, là, c'est un autre sujet, parce que c'est avec les opérateurs de téléphonie mobile, et on n'est pas forcément les mieux placés pour répondre, mais les TER, en tout cas, eux, sont quand même du matériel relativement moderne, qui circule sur cette ligne. Pour ce qui est du temps de stationnement en gare de Pardieu, pour rejoindre Perrache qui est un petit peu plus long, là c'est des difficultés de circulation dans le nœud ferroviaire lyonnais. Le nœud ferroviaire lyonnais il est saturé, Tous les mouvements entre les gares de Hardieu et de Perrache, ils sont nombreux, entre les trains de fret, entre les TGV, entre les TER. L'infrastructure, elle est très limitée. Et ça, mes collègues de réseau connaissent ça mieux que moi. Et donc, voilà, on a beaucoup de trains, très peu de capacité, ce qui oblige parfois à avoir des temps de stationnement dans les gares pour permettre au trafic de pouvoir s'écouler.
Merci pour cette réponse. Avant de poser la question, réellement, sur celui du matin, il y a 18 minutes d'attente, alors que c'est le train qui a aussi un objectif économique pour relier deux bassins économiques importants de notre grande région. Ces 18 minutes d'attente, je comprends la difficulté technique, mais un vrai frein, à mon avis, pour attirer une clientèle économique. Mais,
On essaye de couper de raccourcir au temps de parcours, c'est le plus long, celui-ci, en temps de parcours, de la relation.
2h20 jusqu'à Perrache.
Ouais, un peu plus, ouais. Donc, effectivement, on y travaille avec Réseau pour 2023.
Ok, merci à vous.
Merci, bonjour. Sébastien Prat, vice-président de transport, communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. C'est bien de réagir à la fin, puisqu'on a plein de choses à dire. Sur les guichets, parce que la préfecture du Cantal-Aurillac a des guichets ouverts seulement l'après-midi. Donc moi, je suis monté en train, j'ai voulu prendre mon billet hier à 18h. Ben, effectivement, j'ai pris en digital, puisqu'il n'y avait personne au guichet. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas opposer digital et humanité dans les gares, puisqu'on serait étonné du nombre de jeunes qui sont branchés, qui prennent leur billet au guichet, parce qu'ils ont besoin d'infos, parce qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un. Et déshumaniser les gares au regard des objectifs de mobilité et d'augmentation de l'offre ferroviaire que nous espérons dans tous les territoires, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse à apporter pour l'avenir. Sur les travaux, c'est pas une question, c'est aussi pour relayer les propos, le premier propos de monsieur que j'ai perdu le nom, juste en mal. Sur les travaux, Aurillac, clairement, effectivement, il y a du sous-investissement qui est énorme. Moi, je bondis quand j'entends les chiffres Aurillac-Brive, Aurillac-Figeac avec l'accident qu'il y a eu à la gare, Aurillac-Arvin. Et les usagers n'ont pas simplement l'impression d'avoir des coupures de ligne, ils ont aussi l'impression que c'est une réalité que le service n'évolue pas et n'augmente pas. J'entends SNCF Réseau qui dit que nous allons gagner en vitesse, mais en fait, nous allons juste reprendre la vitesse qui de 80 entre Vic et le Luron, qui a été abaissée il y a quelques années parce que la voie était défectueuse. Donc en fait, le service va évoluer, mais de manière tout à fait relative, puisque nous allons reprendre le temps de trajet que nous avions. Donc, je vais m'inscrire dans le débat de fond. C'est très positif que M. Aguilera, vous venez dans les départements, on a plein de choses à vous dire, vous êtes rendu compte, notamment à Aurillac et dans la cabane. On sera très attentif à l'offre ferroviaire. Le Cantal est très attentif, ses élus, ses usagers aussi, notamment Aurillac, puisque vous le savez, et Vichy a pris la même disposition, mais nous avons un pôle d'échange intermodal qui va voir le jour. Nous sommes inscrits dans une billettique interopérable légère avec Oura. Il nous faudra du ferroviaire, et nous sommes extrêmement inquiets de la mise en concurrence de ces lignes ferroviaires, puisque dans les territoires ruraux comme le Cantal et Aurillac, nous ne voyons pas comment, sans soutien public, nous pourrons, les trois lignes ferroviaires du Cantal pourront se développer et répondre aux besoins qui vont augmenter, puisque le gasoil augmente, puisque les difficultés sociales aussi augmentent, et les mobilités de demain sont très importantes, et ça marquera ce que nous voulons faire comme société.
Je vous rassure sur le dernier point, il ne s'agit pas de l'ouverture à la concurrence au niveau national, où la mise en concurrence, ça se fait pas un ligne par ligne, donc on se retrouvera, alors certains, dans la région, peuvent le faire comme ça, nous c'est pas le découpage qu'on va avoir, deux, on est sur des systèmes de délégation et autres, donc il n'y aura pas de ligne abandonnée sous prétexte qu'il y a une ouverture à la concurrence dans la loi, c'est pas du tout le concept à ce moment-là, c'est-à-dire c'est pas à un moment une privatisation de l'ensemble du dispositif, ça reste la puissance publique qui cherche un prestataire, comme vous le faites peut-être au niveau de la cabale, j'en sais rien, je dis ça, mais je sais pas si vous êtes en régie pour les bus ou si c'est les bus sont opérés par un privé. Non, en régie.
Non, régie. Ouais.
Donc la plupart des agglomérations en France sont avec des opérateurs privés pour assurer leur système de mobilité, c'est pas ce qui fait la bonne ou la mauvaise qualité, la régie ou l'opérateur privé. Après, c'est quel cahier des charges on met pour atteindre un objectif. C'est surtout ça qui compte dans ce dispositif-là. Parce qu'on n'est pas sur une privatisation à outrance et une ouverture sans régulation du système ferroviaire. Donc, pas d'inquiétude sur cette ouverture-là par rapport à nos lignes rurales, bien au contraire. En tout cas, pas d'inquiétude. Et puis, je ne doute pas une seconde que la SNCF répondra avec des offres extrêmement qualitatives et qui va en plus avec des offres qui permettra d'augmenter le service pour le même prix. Donc, tout va bien. Monsieur.
Bonjour, et veuillez m'excuser pour mon retard. Je suis de Montluçon. J'ai une association qui défend la ligne ferroviaire, le train, et surtout l'économie de Montluçon. Parce que depuis des années et des années, on oublie Montluçon. La région oublie Montluçon.
Il y a une on vient de faire un quart d'heure sur Montluçon. Proportionnellement, dans la durée de la réunion par rapport aux autres bassins d'emploi de la région, je pense que c'est aujourd'hui Montluçon qui aura été dans l'une des priorités de notre réunion. Donc on ne peut pas dire qu'on oublie la Montluçon aujourd'hui.
C'est
normal, on roule moins vite. Hein.
Excusez-moi, je vais vous expliquer certaines choses. La dernière fois, j'ai dû prendre le train pour Paris à 5h20. À 5h20, il n'est pas parti. Il est parti 1h30 après. Pourquoi? Parce qu'on a pris le chauffeur pour venir sur Clermont. Montluçon, Clermont, pour aller une locomotive qui n'avait pas de chauffeur. Mais Montluçon, on délaisse complètement. Là, imaginons entre Vichy, Clermont, Rion, Vichy et Moulins, après, en dessous, l'économie, elle vient pas. Elle vient pas. Ça fait des années qu'on est en train de se battre pour les trains. On a été au ministère. En 2017, on était au ministère, à l'Assemblée et au Sénat. On nous a dit, on va vous donner les trains du mode pour pouvoir aller à Paris. Donc, du coup, ils roulent pas assez vite pour aller sur la partie de Bourges ou Vierzon, Paris. Alors, on s'arrête toujours au même endroit et arrive du mode. C'est tout. On est
tous d'accord avec vous ici.
C'est ce que je vous dis.
Est-ce que
vous collaborez avec le Val de Loire?
Juste par commodité pour l'ensemble des personnes. En fait, vous venez d'arriver, donc je comprends que vous n'ayez pas assisté au débat sur Montluçon. On a eu ce débat et on a évoqué toutes ces questions-là. Donc, ne serait-ce que pour le reste de la salle, si vous voulez, on pourra l'évoquer à la fin et après la réunion et je vous redirai ce qu'il en est. Mais si je refais l'intégralité sur le secteur de Montluçon, je pense que je vais lasser l'ensemble de la salle et il y a beaucoup d'autres sujets. Mais on pourra en parler après la réunion si vous le souhaitez. On va poursuivre sur les travaux. Non, sur les offres, pardon.
Oui, alors, on va partir sur la partie desserte. Donc, l'année 2002, elle est marquée... L'année 2022, elle est marquée par le retour de la capacité en gare de Pardue, puisqu'effectivement, les travaux ne sont pas tout à fait terminés, mais ceux qui bloquaient la capacité sont terminés. On retrouve la capacité qu'on avait avant les travaux en 2018. Et la voie L, qui a fait l'objet qui est responsable de ces travaux en partie, sera livrée en juin 2022. Elle sera utilisée pour ça. Donc ça, c'est des faits marquants. Il y a des conséquences sur la partie est de la région que je vais laisser de côté. Le service de minimum 22, je pense que comment il est marqué par des interruptions de circulation, donc on l'a déjà évoqué, mais c'est quand même pour la bonne cause, parce que c'est pour faire des travaux pour rendre le bien d'état. Donc je vais passer vite pour revenir sur la description des principales adaptations. Clairement, Aurillac à Toulouse pour 2022. Clermont-Béziers, donc la ligne a été remise en service lundi dernier. Ça c'est une bonne nouvelle. Des travaux urgents anticipés ont été réalisés, donc il y a reprise des circulations. Il y a des études qui sont en cours pour la poursuite des investissements sous l'égide du préfet Fizi. Sur la ligne Clermont-Mont, là aussi, on poursuit les travaux, on les a évoqués. Donc, il y aura une interruption de circulation du 28 mars au 17 juin entre Brioude et Langogne. Comme vous l'avez noté, ça a été bien relevé, ça ne péjorera pas les services estivaux qu'on a mis en place cette année, le fameux quatrième aller-retour. Alors, par correspondance, donc une correspondance à Langogne entre les services au Vin-Grenade et Occitanie.
les samedis et dimanches. Donc on a un premier retour d'expérience avec des fréquentations de 30 à 50 personnes en moyenne par service sur l'ensemble de la Dessert Festival. Donc c'est quand même intéressant. On les reconduit évidemment pour le service 2022. Et ils ne seront pas impactés par les travaux. Sur Clermont-le-Puy-en-Velay, là aussi, on a des travaux de régénération, donc on aura des coupures de fin mars à mi-juin entre Saint-Georges-d'Aurac et le Puy-en-Velay. Le transport suivra. On a mis en place des petits renforts routiers pour améliorer les connexions entre Angers et Saint-Georges-d'Aurac pendant la période estivale. Si je continue, clairement, il y a tout. On maintient, donc, ça rappelle sur le renfort estival qu'on a développé l'année dernière pour la station du Lioran. On va avoir des coupures de circulation, c'est toujours la même. Donc, on va mettre en place un plan de transport de substitution pour maintenir le maximum de fonctionnalités, notamment les correspondances pour Paris. Et puis, en anticipation de ce qui viendra pour 2023, les services routiers en moyenne cardinale sont maintenus jusqu'au 7 juillet 2023, puisqu'on espère la reprise des circulations ferroviaires à partir du 7 juillet entre Clermont et Toulouse, avec l'optimisation de Figeac. De cardinale ou de Figeac, j'ai un doute. Figeac, excuse-moi. Clairement logique, la petite adaptation pour le service 2022, suite à une fermeture de poste en gare de Lurtol, on est obligé de prolonger un service ferroviaire pour ne pas le supprimer. Donc voilà, on a un service qui va jusqu'à Volvic, alors qu'aujourd'hui il était à Brousse d'Urtol, aller-retour. Le Puy-en-Velay, la chaise du, on reconduit les renforts routiers qui qu'on a mis en place en correspondance sur le 8, donc du 2 juillet au 27 août. Voilà pour les faits principaux. Sur mon école de Montluçon, dont on a beaucoup parlé, alors évidemment, dans la stabilité de l'offre, on rappelle quand même les évolutions qu'on a apportées l'année dernière pour améliorer les relations sur Paris. Montluçon, Clermont-Ferrand, on reconduit l'offre. On a une petite adaptation des services de transport qui est liée à l'offre RAILCOP. Alors, l'offre RAILCOP, vous devez le savoir si vous suivez la presse, elle n'est pas mise en service comme prévu au 27 juin 2022. Néanmoins, dans le cadre de l'instruction, il a fallu adapter l'offre TE. Et il y a des adaptations qui doivent avoir lieu dès le changement de service. C'est le cas notamment du Clermont-Luçon départ 7h34, il est 7h47 aujourd'hui. Donc ce service, du fait qu'on a une information tardivement, on n'a pas pu corriger cette adaptation. Donc elle sera maintenue pour le service. En revanche, il y a d'autres adaptations qui concernent les lignes de Lyon-Clermont, Clermont-Moulin et encore Clermont-Luçon. Puisque les services de RAILCOP ne circuleront pas cette année, nous avons demandé à SNCF Réseau de rétablir la situation de 2021. Donc c'est en cours d'instruction. Voilà. J'enchaîne sur 2023. 2023, comme je disais, la loi L, le Bardieu, elle sera mise en service. L'organisation des sièges de droit de Lyon, ce qui engendre un certain nombre de modifications. Alors pour le TER lui-même, ça a un des avantages majeurs, ça permet de sécuriser un certain nombre de fonctionnalités au droit de Lyon que je ne vais pas développer ici. Et ça a des conséquences, des petites vibrations. Donc notamment, il y a des vibrations sur le bien-fait. Des modifications d'accroche horaire sur le thème de vidéo, si vous souhaitez. En dehors de cette évolution, si on reste sur notre TAC, on va, parce que j'ai dit un peu déjà dit, donc des ouvertures de services sur Clermont-Aurillac-Toulouse, et puis des remises en circulation aussi avec la fin des travaux sur les salons dont on a parlé. Voilà, je vais peut-être enchaîner sur la diapositive suivante pour les détails. Donc là, on vient tout bon, juste pour revenir une troisième fois. Donc on a demandé donc le retour à partir du juillet de la desserte que nous avions avant l'incendie. Donc 5,5 aller-retour entre Lyon et Figeac et aller-retour Clermont-Toulouse. Donc ça, c'est une préparation. Sur Clermont-Nîmes, nous aurons encore des interruptions de circulation pour les travaux de régénération. Et puis, on essaie pour le service des 2023 de voir si on peut mettre en liaison directe le quatrième aller-retour et pas en correspondance. L'instruction est en cours avec la région Occitanie. Aurillac Brive, il y a les travaux de survie qui sont envisagés au cours de l'année 2023. Donc là, il y aura un plan de transport adapté à travailler. Clermont-Puy, de nouveau, il y a des travaux de survie qui sont programmés. On note que la desserte n'est pas encore établie à l'heure à laquelle on part. Et puis on travaille des ajustements de desserte qui ont été proposés par SNCF. Sur la relation Montluçon-Valence-Bourges-Vierzon, on reviendra sur le sujet des petites lignes et des travaux programmés en termes d'investissement, mais donc il y a bien des investissements qui sont prévus par la région de Rhône-Alpes et qui seront financés, qui vont donc engendrer des interruptions de circulation. Donc là encore, un plan de transport qui sera à travailler. Pour revenir sur RICOP maintient sa demande pour le service 2023. La connaissance qu'on a de sa demande, c'est que on avait évoqué avec vous l'année dernière deux allers-retours au Bordeaux. Il a depuis complété, même entre temps, il avait complété sa demande de sillon. Donc elle est plus étoffée que ce qu'on avait pu nous présenter des horaires de l'hypothèque. Donc tout ça pour dire qu'il y aura vraisemblablement des ajustements de desserte TER à prévoir, en lien avec ces circulations qui représentent un certain nombre quand même. Donc il faudra sans doute de nouveau travailler des adaptations TER. Donc sur Clermont-Ferrand, Lyon, je l'ai dit tout à l'heure, oui, sur la 4e de 2023, il y a des petites vibrations. Pour donner un exemple, aujourd'hui, on part de Clermont à 5,8. Et demain, on partira à la nuit de manière un peu générique, pour vous donner à peu près l'ampleur des modifications. Donc, ce sont des vibrations qui sont engendrées par la nouvelle des 5 secondes à l'année 2023. L'évolution sur 2023, il y a la mise en service du troisième aller-retour TET Lyon-Lens, qui va offrir des nouvelles correspondances, notamment à Saint-Germain des Fossés, pour être en direction de Clermont. Donc ça c'est aussi dans le visage et on travaille la coordination avec les services TET quand on peut le faire. Voilà les principales modifications de services à 2022 et 2023. On sera peut-être là. Bonjour, je continue. Sur la politique d'investissement matériel. Alors, ça ne concerne pas tout à fait directement, mais on a investi. Sur les rames réjoulis qui sont arrivées sur la rue Savoie, qui viennent permettre de passer en matériel moderne sur l'ensemble de la desserte TER de la rue Savoie. Ça permet de le déploiement du matériel électrique sur l'est de la région. On intervient également, peut-être qu'on intervient dans l'acquisition d'armes, on intervient sur l'ensemble de l'appareil de production et de télé-maintenance, qui permettent avec une meilleure organisation, d'une part, un meilleur respect de l'impact de l'emploi opérationnel, parce qu'il ne suffit pas d'avoir du parc, il faut qu'aujourd'hui le parc soit bien disponible, qu'il soit maintenu de manière efficace. En fait, on investit à Bourg-en-Bresse pour permettre notamment des améliorations. On investit aussi sur des sites de remisage de Vénissieux qui va accueillir, à côté de Lyon, qui va accueillir notamment des régions d'Uzène. Et donc, pour permettre sa meilleure optimisation, le fait que la maintenance soit plus fluide, la formation des trains en unité multiple, on investit sur des voies de remisage pour permettre cette organisation. Les régions d'Uzène, je les ai on a, la région a décidé l'acquisition de 19 régions d'Uzène. Ils vont arriver au courant de l'année 2023. Ils vont répondre à un certain nombre d'objectifs. le fait que ça me permet de moderniser le parc et donc de délester de séries aujourd'hui qui fonctionnent pas bien. Les Z2 sont vraiment des séries qui ne fonctionnent pas bien. SNCF a s'est séparé du parc des 72-500, même le dernier parc, on va dire un peu vétus qui nous reste, en dehors des Cora et des séries d'autres sujets, c'est les Z2 de matérialité qui est vraiment régulièrement préfabriqué. Ça nous permet aussi d'absorber en fait le fait que on a programmé et financé cette année la rénovation de 53 rames AGC dont certains roulent sur le territoire. Déjà, c'est 1076 qui est un problème qui nous concerne. Ils vont partir en rénovation et cette rénovation, et donc quand ils sont en rénovation, ces matériels ne sont pas utiles pour le plan de transport. Donc, il est nécessaire d'avoir du matériel pour maintenir le plan de transport, parce qu'il n'y a pas de dégradation pendant que ces matériels sont en rénovation. C'est un objectif qui sera permis par l'arrivée de CRGZ et le redéploiement du parc. La finalité, évidemment, de tout ça, c'est aussi d'augmenter l'emploi. Donc, ça sera fait au droit de l'agglomération lyonnaise sur des trajets et réseaux. Après, par cascade, on peut libérer d'autres matériels et y avoir d'autres améliorations d'emploi. Pour l'arrivée de ces matériels électriques, on investit là aussi sur la création d'un nouvel atelier à Saint-Étienne pour absorber le volume supplémentaire de réponse de matériel. Voilà, on va dire plus. On continue ultra. Donc là, la rénovation, je dis, voilà. Donc là, on a lancé 53 rames AGC en 2020. Axe, on devrait réaliser entre 2023 et 2025. Au-delà de cette, donc c'est une rénovation qui prévoit de la modernisation, donc avec du wifi, la protection temps réel, le système d'information d'un voyageur plus performant. On rappelle que le parc est équipé en vidéoprotection depuis la mi-mai, en dehors des rames de l'opéra, notamment le corral. On peut dire que l'expérimentation de la vidéoprotection en temps réel n'est pas exactement en cours sur 110 matériels. Sur la question de la décarbonation du parc que le vice-président a évoqué, donc ça va être un sujet de plus en plus important, on est engagé aujourd'hui dans deux expérimentations, une expérimentation cramatrice sur le bourg, je ne vais pas m'étaler dessus, plus proche de nous, ce qui nous concerne ici, c'est l'expérimentation sur l'hydrogène, donc nous avons décidé l'acquisition de 3 rames bimodes électriques hydrogène qui seront donc déployées sur Brioude, Clermont-Lyon, parce que c'est entre Clermont et Brioude que c'est intéressant, et aussi sur Clermont-Lyon. À partir de 2025, les premières expérimentations auront lieu en 2023, parce que les rames des premières auront lieu en 2023, de l'ensemble de l'expérimentation, donc on a plusieurs régions engagées dans cette expérimentation, on a aussi Bourgogne et Franche-Comté et Grand Est. Voilà. C'est un programme national où la région est associée, dans 3 rames. Ce qui nous concerne au droit de Clermont. Et évidemment, pour l'accueil de ces rames, et plus que l'accueil, leur alimentation en énergie, on travaille actuellement à la construction, adaptation des installations de maintenance et la création d'une station d'avitaillement en énergie, proche de l'énergie, pour ce matériel et énergie hydrogène. Je continue. Alors, pour les perspectives, on a déjà donné des informations. Donc, sur les toiles de ferroviaire clermontoise, l'idée, c'est une démarche qui est inscrite dans notre arbitre, le développement au droit des promoteurs de mobilité d'une offre régionale adaptée aux besoins. Il y a des démarches.
On doit avoir un micro à distance, je ne sais pas, quelqu'un qui nous écoute à distance et qui a dû laisser son micro ouvert.
Des démarches sont déjà engagées sur Grenoble, sur Lyon, il y en a qui viennent de démarrer sur Chambéry, et on va enclencher la démarche sur les toiles ferroviaires comme on le passe en 2022, avec les acteurs du territoire, donc l'État, la région, le pôle métropolitain Clermont-Bichon-Auvergne, le SNTC, le département de l'Ille, pour travailler à définir une offre régionale adaptée aux besoins du droit de l'eau. Ça permet de couvrir un certain nombre de champs. Qu'est-ce que c'est qu'une offre TER, petite ROR sur le territoire? Intégrer des ouvertures de halte. On a le sujet de la halte de Charanière qui est identifié. Il y en aura peut-être d'autres. Travailler à l'amélioration de la robustesse des circulations ferroviaires. C'est un sujet évidemment central. et puis travailler cette desserte TER. Le vice-président vous l'a dit, est très attaché à une vision globale des mobilités, pas simplement le mode ferroviaire. Il faut que ce soit vraiment un système complètement intégré de mobilité. Donc voilà pour l'étude qu'on souhaite lancer en 2022. Le schéma directeur Lyon-Clermont, on l'a annoncé, on souhaite également lancer une étude d'amont pour définir les possibles sur cette ligne. Alors, il y a déjà eu de nombreuses études, on sait que l'amélioration de la ligne est quelque chose qui va coûter très cher. Donc, là, la piste, on aura peut-être l'occasion de voir ce qui est envisageable, mais comme les études l'ont déjà montré, c'est très 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 coûteux. Donc, on va privilégier le travail sur la robustesse et la régularité, prévoir l'augmentation de capacité, parce que on a une signalisation qui n'est pas extrêmement performante à l'arrivée sur la première année de Lyonnaise. Or, on a des nouveaux services qui se développent, et c'est une très bonne chose. On a les TET de Nantes, on a des services qui sont vraiment organisés Lyon, et on a les TET à Lyon-Clermont. Et on voit déjà dans les perspectives de développement que ça peut être conflictuel. Donc, préparer l'augmentation de capacité pour permettre la bonne circulation de l'ensemble des circulations ferroviaires.
C'est compliqué, il faut pas dire que c'est un métier qui met trop en charge.
Et puis, ça a été demandé, et ça c'est vraiment la réponse, c'est quelque chose qu'on peut interdire tout à l'heure, et c'est vraiment une réponse. Si on ne peut pas significativement améliorer ton parcours, on peut le rendre plus utile. Et je le prends aussi moins régulièrement pour les habitants de la région. Effectivement, les coupures de réseau sont extrêmement élevées. La couverture numérique de la ligne est quand même. Donc, il faut qu'on puisse travailler à la fois cette couverture numérique et pourquoi pas, vous avez évoqué la question de l'alimentation électrique, c'est le confort à bord. Il faut qu'on puisse avoir un confort à bord. Quand le temps de parcours ne peut pas être diminué, il faut que ce temps de parcours puisse être pleinement utile. Donc, c'est ces objectifs qu'on va travailler dans ce schéma directeur, et on va l'articuler à la fois avec la réflexion sur les toilettes de Clermont, pour la bonne complémentarité, la bonne intégration, parce qu'à un moment donné, sur la même infrastructure, et de la même manière sur les toiles ferroviaires lyonnaises ou de la fiction sur le projet. Le TET, la ligne TET Paris-Clermont-Ferrand, donc c'est un sujet majeur pour la région, nous ne sommes pas un territoire d'organisatrice. Nous ne sommes pas notre gestionnaire d'infrastructure, ça a été rappelé. Dans le plan de relance qui a été signé le 5 octobre 2020, il y a 130 millions qui sont alloués, c'était le premier plan de relance pour la région qu'on peut signer, 130 millions qui sont alloués pour permettre le développement du schéma directeur, donc 43 millions pour la région. Donc les études ont lieu, les études préliminaires ont lieu pour définir la consistance précise de ces programmes. On va engager un suivi à la commission permanente le 2 décembre. Ensuite de ces études, on commence à faire des montants considérables, de 15 millions d'euros d'études de projet et la préparation de cette consultation des entreprises, participation avec 5 millions, pour engager des travaux qui vont porter sur le renforcement des installations électriques qui sont devenues nécessaires et le nouveau matériel. Puisse utiliser pleinement ces performances. On va travailler sur des petits relèvements de vitesse. On va travailler aussi sur, ça c'est juste un sujet qui est majeur à l'environnement qui est à l'intérieur de la face, travailler sur les actions pour limiter les perturbations externes au système ferroviaire sur la régularité des services TET, par exemple. Voilà. En complément, il y a des actions qui sont lancées sur, qui sont parties du programme, sur le traitement des passagers à niveau. Le traitement des passagers à niveau, ça permet deux choses. Ça permet d'une part de pouvoir augmenter la vitesse de circulation, de et ça permet aussi de sécuriser, d'améliorer la régularité de la ligne, les passagers à niveau. Alors, je vais passer la parole à Pierre-Pierre pour la partie petite ligne de sortie.
Oui, donc on va avoir deux diapositives là, concernant les petites lignes, qu'on appelle maintenant d'ailleurs les lignes de desserte fine du territoire. Donc vous savez qu'il y a eu un plan de sauvetage en fait financé par la région, l'État et SNCF Réseau qui a permis sur 2016-2020 de financer 256 millions d'euros de travaux à hauteur de 70, à peu près 70. Par la région. Et il y a maintenant un plan de relance spécifique concernant l'Auvergne avec 130 millions d'euros financé moderne. Donc, dans ce cadre, une étude est en cours de lancement concernant Thiers-Bois. Donc, ce qu'on peut rappeler, que tout ça, enfin, la plupart d'entre vous le savent déjà, hein, vous savez déjà, les circulations ferroviaires donc, avaient été arrêtées en juillet 2016 pour raison de sécurité, donc les circulations étaient suspendues. En revanche, avaient été maintenues les circulations entre Clermont et Thiers et entre Saint-Étienne et Moindre. À l'époque, le maintien de la section en fait entre Thiers et Moindre était évalué à 50 millions d'euros par SNCF Réseau. Bon, les études vont démarrer, mais elles montreront probablement que le besoin financier est plus important aujourd'hui. Et puis, la section Bois-Montbrison avait, elle, pu être couverte grâce à des travaux réalisés avec des financements de la région, mais aussi des collectivités et de l'État. Il y a eu une forte mobilisation des acteurs du territoire en faveur de la réouverture de cette liaison ferroviaire à Thiers-Bois. D'ailleurs, j'en vois quelques-uns dans la salle. Et c'est pour cette raison que la région a décidé de proposer, en fait, dans le cadre du plan de relance, de financer 300 000 euros d'études pour faire à nouveau le point sur la réouverture de cette section ferroviaire Thiers-Bois. L'État, en juin, par courrier, a donné son accord pour que ce soit intégré au plan de relance, même si c'est un financement 100% région. Et de façon à je dirais, garantir l'indépendance de cette étude, qui a été fortement souhaitée par le président Laurent Wauquiez, c'est SNCF Réseau qui va assurer la maîtrise d'ouvrage de l'étude, qui travaille actuellement sur le cahier des charges, également avec la région et l'État, mais l'étude sera confiée à des prestataires extérieurs pour cette garantie d'indépendance, à la fois pour évaluer le potentiel de fréquentation qui avait fait beaucoup débat en fait. Hein. On avait évoqué à un moment 50 usagers sur cette ligne, mais il y a beaucoup de débat sur le potentiel et sur le besoin. C'est pour ça qu'on souhaite que ça puisse être estimé de façon la plus indépendante, la plus objective possible sur le potentiel de fréquentation tout mode. Je précise bien, enfin, comme le souligne souvent
c'est bien,
le président,
pas
seulement sur ce qui existe et sur les besoins du ferroviaire, mais les besoins de déplacement, quels que soient les modes, et puis actualiser les coûts de régénération de l'infrastructure, comme je disais tout à l'heure. En 2016, c'était estimé à 50 millions d'euros, c'est probablement plus aujourd'hui. Et donc, les résultats de l'étude sont prévus d'ici la fin de l'année 2022. Ça, c'est pour ce petit focus en fait, qu'on souhaitait faire sur Thiers-Bois, puisque c'est que ça intéresse particulièrement ce comité de mobilité. Il y a également donc un petit point qui est prévu, mais bon, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Sur des opérations de régénération en cours, on en a déjà évoqué certaines. Alors, je ne les prends pas dans l'ordre. Hein. Je vais commencer par Henri Acarmo parce qu'on en a déjà parlé. Vous voyez que sont évoqués 58 millions d'euros et ça fait partie du plan de relance dont je vous parlais tout à l'heure de 130 millions d'euros. Donc, c'est la première opération qui a été lancée. De ce plan de relance, 50% région, 50% État, on est vraiment sur un financement à parité dans ce plan de relance 2021-2022. Les fameux travaux longs qui sont en cours, et depuis déjà les travaux depuis de nombreuses années. Et les autres opérations qui sont listées ou qui ont déjà été en partie évoquées par Eric tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, sont des opérations du plan de sauvetage. 2016-2020, mais bien entendu, ce sont des crédits qui ont été adoptés en 2020, mais ce sont des travaux qui ont plutôt lieu sur 2021-2022. Et puis, on a déjà abondamment parlé de Montluçon, mais je termine avec Montluçon Valence. Sachez que dans le plan de relance, sont prévues la phase suivante des travaux, donc ça reste à conventionner, ça reste à définir. Dès cette semaine, en fait, la commission va étudier les études 2023, je dirais, à ces travaux 2023-2024. Voilà pour les petites lignes. Hein. Je crois que c'est
merci, il y avait une question sur au fond de la salle.
Oui, bonjour, Karine Legrand du collectif Clermont-Saint-Étienne-Lyon. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pris en considération justement la demande à la fois des associations, des habitants, des élus locaux qui se sont fortement, effectivement, comme vous l'avez signalé, mobilisés fortement depuis un an. Et nous tenons à vous en remercier. Et puis nous tenons également à vous remercier du rendez-vous qu'on va avoir en fait courant décembre, où on pourra évoquer, je dirais, les problématiques de ce tronçon, entre autres, enfin du tronçon manquant, hein, c'est-à-dire en fait, il y a les deux tiers sur 150 km, hein, il y en a 48 qui manquent pour relier les deux capitales qui sont Clermont à Saint-Étienne. Et je voulais simplement vous dire également que nous, on a des points de détail hein, sur le tronçon Clermont-Thiers, avec des remontées d'usagers, puisque ça fait un an maintenant qu'on a des remontées d'usagers sur les correspondances avec Vichy, les correspondances avec Clermont, mais vu le délai actuel et puis les discussions en cours, ça sera, on vous enverra en fait un courriel nous précisant tout ça. Voilà.
Pas de problème, merci beaucoup. Oui, Monsieur Guyot.
Merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai beaucoup entendu tout ce qui a été dit aujourd'hui. L'association, je crois que vous avez lu contre les informations de la SNCF concernant les guichets. Donc, je vois qu'à Saint-Germain, le guichet est supprimé alors qu'il y avait 40% des usagers qui prenaient leur billet au guichet. Je trouve ça comme un peu scandaleux. C'est pas le chiffre que vous avez donné tout à l'heure. Et quand on parle de l'ouverture des guichets dans les gares, il y avait au moins une personne de présence tout le temps. Quand on voit maintenant à Saint-Germain-des-Fossés, et je sais si Saint-Germain est une gare encore importante, il y a presque 300 personnes qui montent ou qui descendent des trains chaque jour, et quand on voit qu'on met une présence à Saint-Germain dans la gare que le matin, et l'après-midi, personne pour accueillir les usagers et régler les problèmes, parce qu'il y en a quelquefois, il y a des trains qui sont en retard, les correspondances en particulier, avec les Nantes-Lyon, les trains sont à fond en retard, et les voyageurs n'ont personne à qui s'adresser, et c'est pas avec la machine à vendre les billets qui vont résoudre leurs problèmes. Donc je pense que de ce côté-là, il manque un peu de personnel dans une gare telle que Saint-Germain. Sur d'autres sujets concernant la ligne Clermont-Paris, je vais quand même en parler un peu. Tout à l'heure, j'entendais dire que sur cette ligne, tous les avantages étaient donnés. C'est pas forcément vrai, parce que je voulais quand même vous rappeler qu'en 1992, Paris-Clermont mettait 3h21. Le train mettait 3h21. En 2021, 3h27. Et vous voyez les progrès qu'il y a eu sur cette ligne, sachant qu'on a quand même mis l'électrification dans les années 90 et qu'on a quand même fait quelques kilomètres en V200. Trouver l'erreur, pourquoi on met plus longtemps qu'en 1991, où c'était encore des diesels, des 72 000, je crois, et qui roulaient à 160 maximum. C'est la même chose au niveau de la vitesse sur Clermont-Lyon. Alors on a supprimé. Alors je voulais dire pour parler clairement, on met plus longtemps qu'on ayant supprimé l'arrêt à Saint-Germain. Alors une petite information, lorsqu'on se réunissait il y a quelques années concernant les futures rames qui devaient sortir en 2023 sur Clermont-Paris, on nous disait que ces rames-là, elles allaient s'arrêter plus vite et repartir plus vite. Alors j'ai fait une intervention, j'avais dit puisqu'on gagne du temps en arrêtant ces rames, vous devriez remettre les arrêts à Saint-Germain. Ça a fait rire tout le monde, mais moi c'était très sérieux là-dedans. Alors pour revenir à Clermont-Lyon, c'est toujours la même chose. Le train du matin, tu disais qu'il mettait 2h, il fait 2h51 pour aller de Clermont à Pardieu. À Courage. Alors qu'avant, quand il passait par Saint-Germain, qu'il n'y avait pas de raccour, il mettait moins que ça. C'est comme, vous trouvez l'erreur aussi là. Donc c'est quand même important. Et tout ça, c'est, je voulais revenir à Saint-Germain quand même, parce qu'à Saint-Germain, on a maintenant, avec les Clermont, Lyon, on est convaincu qu'il est obligé, puisque les trains, ils passent par le Racon, qu'ils ne devaient pas passer par le Racon à l'origine de la SNCF. Par le Racon, devait ne passer que les nouveaux trains qui freinent du Clermont-Lyon direct. Ça n'a pas été le cas. On nous a encore roulé dans la farine à cette époque-là. Et la région, les collectivités qui ont financé ce Racon ont tout été roulé dans la farine par le fait que ce Racon ne devait pas servir pour tous les trains. Il devait encore y avoir à Saint-Germain. Donc à Saint-Germain, actuellement, on perd 20 minutes, c'est-à-dire une demi-heure pour aller à Lyon. C'est exactement la même chose pour les Bouginois. Les Bouginois qui avant partaient à 6h30 et qui arrivaient, par exemple, à Rouen vers 7h30, ce qui était une heure pour aller à Rouen. Maintenant, ils sont partis une demi-heure plus tôt pour aller prendre le train à Vichy, payer plus cher et arriver à la même heure à Rouen. C'est quand même une chose qui est quand même pas tout à fait normale. C'est pour ça que nous, l'association Saint-Germain en train, et la mairie de Saint-Germain qui est présentée par mon collègue Alain Cassin, et nous sommes d'accord sur le fait qu'il faudrait regarder. Alors, on nous avait promis il y a quelques années, à cette même réunion, il y a 4 ou 5 ans, que lorsque nous avions demandé qu'il y ait un train particulier, le train du matin qui repasse par Saint-Germain, et que l'on regarde aussi les dessertes au cours de journée, les samedis et dimanches, sur TER, là, entre Clermont, Vichy, Saint-Germain, Moulins, soit les Lyonnais, on avait dit qu'à l'époque c'était un peu trop tôt et qu'on étudierait ça pour 2021. Alors, on est en 2021, là, il n'y a pas eu d'amélioration. Alors peut-être qu'on parlera un jour d'améliorer cette desserte en journée, parce que les desserts du matin et du soir pour les ouvriers, on n'a pas grand-chose à dire. Voilà, qu'est-ce que j'avais plein d'autres choses aussi encore à dire, mais je vais peut-être m'arrêter là, mais de toute façon, on voudrait qu'on parle un peu plus et qu'on essaye d'améliorer ces choses à Saint-Germain, parce que à Saint-Germain, il y a des voyageurs et il y a malheureusement l'absence de la SNCF. Je ne parle pas des accès handicapés, parce que à Saint-Germain, un handicapé qui veut monter dans les deux rapides qui s'arrêtent, il ne peut pas monter à Saint-Germain, il faut qu'il aille pour le train Vichy. C'est interdit de le faire monter quelqu'un qui a des problèmes de mobilité en gare de Saint-Germain. Ça, c'est quand même une honte. C'est pas que la région que j'attaque, c'est plutôt que la SNCF ne donne pas les possibilités à la région de mettre les trains sur Saint-Germain. Peut-être que RAILCOP ou les nouvelles rames que vous voulez mettre, ou pour les RAILCOP passant par Saint-Germain, peut-être que pour certains rails, on pourra regarder que ça sera bénéfique. Et sur vos propositions, le regret que j'ai, c'est que comme vous dites, vous allez rajouter un train, ou il y a des rames qui vont se rajouter, on n'a pas les horaires. Alors, on n'a pas la vision sur l'utilité de ces nouveaux trains ou pas l'utilité.
Merci beaucoup pour ces interrogations effectivement légitimes sur Saint-Germain, qui en plus, évidemment, dans une ampleur un peu différente. Mais moi, je souligne l'importance de la gare de Saint-Germain. J'évoquais tout à l'heure entre Clermont et Rion et tous les gens qui ne veulent plus se rabattre sur le cœur de Clermont et qui prennent le train à Rion. D'une certaine manière, sur la partie nord de l'agglomération vichysoise, on aura de plus en plus le problème de ceux qui veulent. Et en plus, il y a les parkings, il y a les infrastructures, prendre le train à Saint-Germain-des-Fossés pour éviter d'entrer dans le cœur urbain de Vichy. Donc c'est vrai que pour ça, il y a un vrai sujet sur l'avenir de la gare de Saint-Germain, mais un vrai sujet positif sur l'avenir de la gare de Saint-Germain qui, à mon avis, reprendra des couleurs quand au fur et à mesure que la gare de Vichy sera difficile en termes d'accès, de parking, etc., etc. Donc il y aura un vrai sujet à moyen terme.
J'ai oublié une information sur les Montluçon Lyon, parce que je m'intéresse aussi à ces trains-là, que je me souviens avant le raccordement, il y avait un train qui partait de Montluçon, je ne sais pas trop à quelle heure, et qui arrivait à 7h10 à 5h20 le matin. Ils prenaient le train, tout de suite le train qui arrive à Lyon, 9h10. Aujourd'hui, pour que ces gens-là puissent arriver à Lyon avant 9h, il faut qu'ils prennent un autocar à 4h du matin pour aller jusqu'à Vichy et prendre le train après. Parce que là aussi, pour le moment que MyPop va se créer, il y aura peut-être des horaires qui correspondent, mais s'il n'y avait pas d'horaires qui correspondent, pourquoi on ne mettrait pas ce train, puisqu'après, la ligne Saint-Germain-Guénard sera réouverte aux voyageurs, donc on pourra remettre, la SNCF pourra remettre les trains aux voyageurs.
On note ça, on regarde ça.
Ce qu'on peut rappeler comme la bonne nouvelle pour Saint-Germain, c'est que le troisième aller-retour Lyon-Nantes dessert Saint-Germain-des-Fossés et Lyon-Nantes.
Oui, mais là, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Les deux Lyon-Nantes qu'il y a actuellement, c'est intéressant pour aller à Lyon. Mais le premier pour aller à Lyon le matin, c'est 11h33. Vous comprenez le problème? C'est pour ça que le suivi du matin qui passait à 7h20 et qui arrivait à Lyon était impeccable pour Saint-Germain et pour tout le bassin d'emploi autour de Saint-Germain. Le vice-président disait tout à l'heure, les gens de Moulins en particulier, ils perdent actuellement une demi-heure. C'est pas compliqué.
Ok, merci. Monsieur, vas-y.
J'ai confirmé Saint-Germain parce que... J'ai confirmé Saint-Germain parce que nous, on mettait 2h50 à Montluçon, on mettait 2h50 pour aller à Paris. Maintenant, on est au minimum 3h30, si c'est pas 4h. Hein. Vous battez pour 5 minutes, nous on recule. On recule d'une demi-heure, d'une heure en arrière. Saint-Germain-des-Fossés, je connais bien Saint-Germain-des-Fossés parce que moi, quand je prends les turbos qui s'arrêtent à Saint-Germain-des-Fossés, on change vers Saint-Germain-des-Fossés pour aller à Lyon. Et c'était vraiment intéressant comme parcours, qui était peu rapide. C'est peu rapide.
Merci. Monsieur, il y a une question devant. Oui.
Une question par rapport au service futur RailCop. Est-ce qu'il y a toujours une convention pour accepter les USG abonnés, comme ça peut être signé sur la région de PACA, sur les services entre Marseille et Nice? Donc les usagers abonnés donc, pouvaient être acceptés à bord des trains Téo. Est-ce que c'est une décoration est prévue également pour votre âge?
Oui. Oui, monsieur.
Cette réunion est très riche. J'ai appris beaucoup de choses. Que vais-je en retenir demain? Voilà, donc c'est une demande, monsieur le vice-président. Est-ce qu'on pourrait avoir communication de ces données?
Avec plaisir.
Voilà. Deuxième intervention, c'est une proposition que je souhaite faire, s'il vous plaît, au président de région. Quand je dis au président de région, c'est le président des régions de France. Depuis les débats tout à l'heure, on dit l'État n'investit pas, l'État se désengage. Est-ce qu'il existe aussi des présidents de France, des groupes de travail ou des comités de travail? Ne serait-il pas judicieux de proposer à vos collègues, monsieur le vice-président, de créer un comité, une commission, un groupe de travail sur les mobilités? Pourquoi? Parce que quand on est plusieurs, on est plus fort.
Il existe, il se réunit régulièrement, il se réunit d'ailleurs demain après-midi en présence du président de la SNCF, monsieur Farandou, donc il se réunit à peu près tous les mois. Oui, il existe et, beaucoup de sujets effectivement transit par ce groupe-là.
Merci.
Oui.
Oui, excusez-moi, je reviens sur mon... Je suis désolé, mais c'est vrai que si ça marchait mieux, on parlerait mieux.
Mais moi, j'adore mon Luçon.
Si on pouvait revenir, madame, sur l'installe précédente qui parlait des travaux... c'est pas celle-ci. Parce que j'ai vu qu'il y avait une étude, et vous en parliez, à la prochaine commission permanente qui devait étudier le sujet, parler notamment entre Montluçon et Vallon.
Oui.
Mais on veut
ici en bas.
Là. Mais on veut étudier quoi? On a 14 km limités à 80 à l'heure. 16 km limités à 40 à l'heure. 10 km de rail fissurés. On veut étudier quoi?
La taille des fissures.
Alors, je peux vous donner une précision, ce sont des fissures sur des anciennes soudures qui ont été faites parce que déjà, ça n'allait pas bien. Je crois que le moment n'est plus à l'étude et il faut vraiment passer à des travaux.
On va vous répondre.
La deuxième chose que je voulais aborder, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait modifié les horaires en fonction des demandes de RailCop. Bon, il faut bien que tout le monde puisse vivre, mais moi, je trouve assez curieux qu'on soit obligé de modifier les horaires des TER pour satisfaire RailCop, alors qu'on n'a pas pu, avec la région Nouvelle-Aquitaine, se mettre d'accord pour mettre en correspondance à Montluçon le train qui venait de Bordeaux et celui qui allait à Lyon. C'est pas qu'il y a un petit truc qui ne va pas là.
C'était pas exactement ça le problème.
Si, si, c'est ça. Même si le problème n'est pas tout à fait le problème, mais quand même, il me semble que c'est plus facile de s'accorder avec la région voisine plutôt qu'avec un nouvel opérateur qui va d'ailleurs vous demander le plus souvent possible de modifier votre TER pour que lui puisse faire un service de qualité.
On va vous répondre sur les fissures déjà.
D'accord.
Mais monsieur Coffin, donc.
Allez-y.
Vous savez bien qu'avant de faire des travaux, il faut toujours des études de diverses natures, inscrire un dossier pour suivre la
situation. Oui, mais je ne voudrais pas vous rappeler que ça fait des années et des années qu'on étudie.
Mais écoutez, parce que j'ai bien pu compléter ma réponse, puisque c'est SNCF Réseau qui met l'ouvrage sur ces travaux. Donc, ce qui va être proposé, c'est en effet des études de projet et de consultation des entreprises. Il faut consulter les entreprises avant de pouvoir en faire.
Oui, absolument. Donc, il a été proposé à la région une convention de financement pour payer des études de projet et la consultation des entreprises pour la réalisation d'une régénération quasi générale de la section de Montluçon-Vallon. Et donc là, on parle de 15 km de renouvellement complet de la voie pour donner suite à vos constats sur son état assez dégradé. Effectivement, tout va être changé. Voilà, et donc c'est des travaux prévus à l'échéance 2023-24 et pour lesquels on rédige des dossiers de consultation des entreprises sur l'année 2022. Voilà.
Après, on comprend tous, hein, parce que c'est ce qui est derrière cette question de l'étude sur Montluçon-Vallon, c'est que c'est vrai quand on voit en cumulé le coût des études ici ou là sur tout ça, ça fait des chiffres qui sont toujours impressionnants et parfois difficilement compréhensibles pour le contribuable. Mais passe le débat. Il y avait d'autres questions sur les voies.
Bonjour, donc je suis Gabriel Tonnel, défenseur et engagé dans la promotion de la ligne des CLN. Adhérent à l'association des élus aussi, donc ça. Sur la ligne Carmont-Nîmes, donc je voulais faire un petit point déjà pour remercier effectivement pour l'engagement de la région à 100% sur la section centrale des gorges de l'Allier qui est donc le plus mis à mal. D'ailleurs, si à ce niveau-là, si SNCF Réseau pouvait nous dire actuellement, quoi, à date, quel est l'état réel de l'infrastructure, qu'est-ce qu'il reste à faire pour, comme le disait Marc tout à l'heure, pouvoir augmenter les vitesses sans engager 250 millions au lieu de 40 pour remonter à 50, 60 déjà. Ce qu'il faudrait, ce serait quand même intéressant de savoir. Sur l'exploitation, je voulais vous remercier la région qui s'est engagée avec la région Occitanie pour faire l'été, donc le 4e et F tour. La prévision pour 2023 d'annuler leur taux de charge, c'est pour moi essentiel. Commercialement, en termes de visibilité, c'est une très bonne chose. Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure au début de la réunion, sur cette ligne-là qui est interrégionale, qui est une ligne de montagne également, elle a un caractère effectivement de pouvoir désenclaver les territoires environnants qui sont la montagne de Haute-Loire, la montagne ardéchoise notamment. Et là-dessus, il faudra, je pense, articuler tout du moins une mobilité qui soit constructive pour les territoires dont certains n'ont lien actuellement effectivement à part le transport scolaire et c'est assez problématique en fait. Donc voir si dans un premier temps on peut pas créer peut-être une offre saisonnière notamment peut-être sur la montagne ardéchoise, sur le massif du Mézin, les Estables. J'y suis allé il y a quelques semaines et je dialoguais avec le c'est un jeune qui gère le parc de luge et de trottinette. Et il disait effectivement, les gens viennent avec leur voiture parce qu'il y a que le transport scolaire. Et aujourd'hui, je pense qu'il y aurait moyen de développer des offres. Alors des offres ponctuelles, saisonnières, des opérations avec TER, des opérations commerciales. TER Occitanie essaie de le faire ponctuellement sur des sites, le pont du Gard ou autre. Amener les gens pour découvrir un site, y passer la journée. C'est des choses, des pistes de réflexion qui peuvent être mises en place, je pense, rapidement. Qui permet de mettre en valeur le territoire, l'axe ferroviaire, avec une offre à côté, une offre bah, pour aller sur le lieu, et en même temps, ça va en valeur le site, un partenaire, un acteur du terrain. Donc il y a ça à mettre en œuvre. Il y a aussi les termes de Saint-Laurent-les-Bains en Ardèche. J'avais soumis l'idée, ça c'est des choses qu'il faudrait faire pour moi aussi, des offres soit pacte TER plus ces termes, ou aussi avec l'option mobilité pour s'y rendre. Voilà, il y a plein de choses à mettre en œuvre, et là-dessus, vraiment, ça serait bien que la région puisse vraiment, en tant qu'élément moteur, vraiment, que ce soit, que puisse être mise en place assez rapidement, en fait. Par rapport à ce qui a pu être dit aussi, je voulais réagir par rapport à ce qui a pu être dit sur les guichets, effectivement, bon, ça avait déjà été souligné il y a quelques années, je crois que la région s'étant déjà stoppée l'hémorragie. Là-dessus, je pense qu'on est dans une politique d'entreprise, malheureusement, entreprise SNCF, avec la limitation des coûts. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être que la région pourrait contractualiser dans la convention de TER, même si c'est long, gare par gare, l'amplitude d'ouverture des guichets de telle ou telle gare, pour garantir en fait le maintien de l'accès. Je pense qu'effectivement, comme certains l'ont dit, le transfert vers le numérique, il s'est fait sur une certaine part, parce que les guichets avaient été réduits ou fermés, effectivement, je ne parle pas forcément de la région de la Rhône-Alpes, mais que ce soit côté Occitanie, c'est pareil, quand vous avez un guichet dans une petite gare qui ouvre le matin de 6h à 8h, alors que les principaux trains passent après, c'est vrai que c'est pas très avantageux pour faire du commerce. Quand à bord le contrôleur ne passe pas, ou que faute de réseau son appareil n'est pas capable de sortir un titre de transport, effectivement c'est pas non plus comme ça qu'on fait dire cette. La présence sur le terrain dans les gares, elle est essentielle là-dessus. Effectivement, il faut que la région le garantisse ce maintien-là. C'est aussi garant, je pense, du maintien des lignes, et puis globalement du je vais dire du sérieux, mais de l'offre, mais voilà, du vis-à-vis des gens qui en font le service, c'est essentiel.
Beaucoup de propositions dans votre propos, je vous en remercie, et des propositions qui sont effectivement extrêmement intéressantes, dont les dernières, les sujets sur lesquels on n'exclut pas de réfléchir.
Juste autre chose aussi, c'est alors, sur l'aspect commercial, mais ça je vous le ramène de toute façon au point récapitulatif. On a assisté avec le président René Causse à la concertation AgroParisTech. Très intéressante pour cibler, voilà, ils ont montré les différents bassins. Il y a une chose où j'ai trouvé dommage qu'ils ne parlent pas, c'est le déplacement de bout en bout, en fait. Que la ligne est en fait un maillon pour les déplacements plutôt occasionnels, hein, parce que vu la distance, et entre le bassin auvergnat et le bassin méditerranéen. Et ça, c'est aussi important, et il faudra, je pense, développer aussi cette fréquentation-là par adapter la politique tarifaire. Actuellement, il y a des offres très intéressantes dans la gamme TER, illico pour nos samedis, pour nos vacances, mais malheureusement, ça s'arrête sur le territoire auvergnat, sur notre ligne à l'Eras. Donc, même jusqu'au bout des gorges de l'Ayalonen, c'est pas éligible, et l'idéal, ce serait que ça aille au moins jusqu'à Nîmes. Voilà, il y a différentes pistes qui seraient très intéressantes pour développer la fréquentation et l'attractivité des lieux.
Merci pour cette proposition, et vous faites parfaitement la transition avec le sujet suivant, qui est le lancement de nouveaux tarifs. Rapidement, parce que ça va prendre encore quelques minutes, et comme à Réunion, on voit les gens commencer à partir, donc on va accélérer sur les deux, trois dernières slides, donc sur le lancement des nouveaux tarifs.
Tout à fait. Donc, quelques actions qui sont menées également par la région sur d'autres dimensions. Donc, le lancement de nouveaux tarifs, donc on le fait très rapide. Création de tarifs communautaires plus réseau urbain. Donc, quatre réseaux, en fait, sont maintenant en terre plus réseau urbain. Deux sont déjà actés, le Puy-en-Velay et Vichy. Deux sont en cours ou à venir, Montluçon et Aurillac, avec des logiques tarifaires qui consistent à, en fait, avoir une tarification attractive pour jointer du TER et du bus urbain. Donc c'est la logique de réseau. Donc c'est l'extension, en fait, de ces logiques de bus sur l'ensemble des réseaux régionaux. Le deuxième sujet de nouveauté tarifaire, c'est la gratuité pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap. Donc c'est un tarif qui va être mis en œuvre à compter de 3 janvier 2022. Il concernera tous les réseaux TER, Léman Express, Car Région Express, Car Région. Ce sera pour effectivement tous les accompagnants d'une personne titulaire de la carte mobilité inclusion, la CMI. Et l'intérêt, c'est effectivement de proposer des tarifications attractives pour utiliser un réseau de transport pour ces accompagnateurs. Très rapidement, puisqu'on a pris par le temps, Les actions sont toujours en cours, hein. C'est notre fil rouge, on en parlait tout à l'heure sur le SDAP, donc le schéma d'accessibilité et transport, et donc le schéma d'accessibilité programmé. Donc aujourd'hui sur 42 gares qui sont accessibles sur le palais sur verre à fin 2020, 50% des gares classées prioritaires. On a effectivement des travaux qui sont prévus sur 21 et 22 sur un certain nombre de gares. On a un certain nombre de montants, les consistances qui sont conventionnées sur l'ensemble du territoire, donc 7,9 millions en Auvergne. On a aussi sur les tarifs, on a la poursuite du plan des assistances et transports successifs avec le système AccepTER. Bien évidemment, il y a des choix qui ont été faits dans le cadre du SDAP. Hein. Toutes les gares ne sont pas équipées, donc il y a des logiques parfois de rabattement, puisque là, c'est la logique en fait de priorisation au niveau de la fréquentation, de l'usage, et certains critères qui ont été définis en amont qui font que certaines gares sont aménagées, d'autres ont des systèmes d'accès, etc. D'autres n'ont pas d'aménagement. Et puis, on a effectivement des compléments, dont notamment la diffusion publique d'un carré de voyage qui est adapté au handicap cognitif. Vous l'avez eu à l'entrée de ce comité, il sera diffusé dans le comité. Un petit livret qui est très intéressant pour ce type effectivement de sujet. Je vais très vite, hein, mais bien évidemment, je vais aller regarder parce qu'il est pas mal fait. On a aussi les actions qui sont menées sur l'accessibilité des arrêts routiers. Alors, c'est un sujet qui est plus complexe parce que l'aménagement des arrêts routiers, évidemment, le nombre d'arrêts qui existent en région, il est difficile de tout faire en même temps, donc on y va progressivement. Donc quand on regarde, on a 1800 arrêts à mettre en accessibilité sur l'ensemble des 11 réseaux hors département du Rhône. C'est effectivement sur la période 43% des arrêts de la région qui ont été rendus accessibles, donc c'est-à-dire qu'il y a encore une autre moitié à rendre accessible. C'est effectivement un avancement qui est assez hétérogène entre les différents départements. L'Allier est plutôt pas mal avancé. Le Cantal un peu moins. Le Puy-de-Dôme, là aussi, il y a un redimensionnement en fait du programme d'accessibilité de ces points d'arrêt. La Haute-Loire n'a pas eu de SDAP à l'époque, donc il y a une vraie question qui reste sur la Haute-Loire. On a donc des programmes qui sont parfois accélérés. On l'évoquait tout à l'heure, c'est souvent long, mais il y a toute une batterie en fait d'actions à mener. En l'occurrence, pour aller plus vite, on a essayé de mettre en place des aides donc qui jumellent l'accessibilité PMR et puis l'installation d'abri voyageur. C'est-à-dire qu'on fait l'abri voyageur, on essaye de faire les autres dispositions avec l'installation de l'abri. On a également aussi la signalétique avec la mise en place d'une charte graphique pour les têtes de poteaux d'arrêt. Donc pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est en train de se développer, c'est en train de se déployer. Il y a des programmations qui sont en cours. Et donc, c'est une action qui est complémentaire avec la logique de numérotation des lignes en termes de lisibilité réseau. Donc voilà un petit peu au pas de course les principales actions qui sont menées. On a donc l'équipement des autocars avec 95% de matériel roulant qui est mis en conformité, des agents qui sont formés. Donc ce qu'on veut dire, c'est que là aussi, c'est des actions qui sont en cours. Tout n'est pas réalisé, ça peut paraître parfois long. Sur certains points d'arrêt, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut paraître parfois distant. Mais bien évidemment, on est à votre écoute pour identifier les besoins quand il y en a des spécifiques. Bien évidemment, le SDAP, il est aussi là pour ce type d'action. Très rapidement, là, on ne va peut-être pas s'éterniser trop sur cette question-là, mais on a aussi des actions et des réflexions menées sur Terre plus Vélo. Donc avec ici une salle extrêmement simple qui rappelle qu'on peut monter à bord des TER avec son vélo en région, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Moyennant une difficulté qui est en heure de pointe, on est quand même soumis à l'accord au contrôle du contrôleur qui peut effectivement dire que le monde est en train, mais on n'a pas d'accès au vélo. On a des systèmes effectivement. Et donc on a également des réflexions, notamment sur Val-de-Sud et sur l'axe Lyon-Valence, sur des expérimentations pour favoriser le cyclotourisme. On a des réflexions aussi sur les questions d'accès au TER en heure de pointe. Donc on a bien évidemment, là je vais aller très rapidement, la question est bien dans le giron des études en cours. Ensuite, le dernier point, mais là je vais s'attacher plus à la parole à M. Frédéric Nira, sur l'aspect donc, qui nous occupe, qui est la loi d'orientation des mobilités, avec notamment le transfert de compétences et la question d'autorité organisatrice régionale, locale, et comment on organise tout ça sur les territoires.
Je pense qu'on va essentiellement passer sur la carte. Ensuite, voilà, cette carte est assez significative qui montre que 95 des communautés de communes sur 107 ont confié la compétence à la région. Donc c'est un sujet important, un levier important. Donc c'est toutes celles qui sont en bleu. La partie grise, c'est les AOM existants avant la loi LOM et en particulier les communautés de l'agglomération de Métropole. Donc on voit, il s'avère que c'est essentiellement sur le puits de Dôme, qu'il y a eu effectivement des orientations un peu différentes. J'ai évoqué tout à l'heure, mais je crois que c'est un peu plus facile de convention sur le 95 qui ont été signés, donc il en reste un certain nombre. Et ça va s'accélérer là. Dans les prochains mois. Une fois qu'on aura passé les conventions, on n'aura pas pour autant réglé tous les problèmes. Il va falloir qu'on se mette au travail, qu'on mette aussi des groupes aussi de travail sur le terrain. Donc là, on a des vraies problématiques de savoir à quelle échelle, quelle est la coordination même avec ce propre comité des mobilités, comment on structure et comment on coordonne tout ça. Mais en tout cas, c'est un sujet important pour nous et on se félicite que la région devienne par ce biais-là et grâce à cette collaboration, à ce partenariat renforcé avec les territoires, vraiment un acteur qui est très fort des mobilités du quotidien et des mobilités de proximité en rapport avec les communautés de communes. Donc c'est une excellente chose, même si, là aussi, le fait d'avoir transféré ou accepté, ça ne définit pas une politique, il y a tout à construire maintenant, et ça va être un défi important dans les années à venir pour la région et les territoires, que de bien développer tous ces aspects. En tout cas, c'est fait partie, je vois, à mon avis, on est la région qui, en termes de nombre de communautés, de communes ayant accepté ce partenariat, on doit être la première région en France, donc ça montre bien effectivement notre ambition aussi sur les mobilités. Et dernier point, là aussi, qui montre notre ambition sur la mobilité, c'est le challenge mobilité qui fonctionne extrêmement bien sur notre territoire, puisqu'on est la région en France où ce challenge a le plus de dynamique. Il fait même référence à l'échelle européenne et au-delà, donc c'est une excellente chose. Et on vous encourage dans vos associations, vos entreprises, vos collectivités à participer l'année prochaine maintenant, au prochain challenge mobilité, ce qui permet vraiment aussi de faire prendre conscience sur les évolutions de la mobilité, les problématiques de mobilité, et de faire évoluer aussi les mobilités sur nos territoires. Donc, comme c'est inscrit tout en bas de cette slide, à vos agendas pour la deuxième édition de 2022. Voilà très rapidement ce qu'on voulait, enfin très rapidement, sur la dernière slide, ce qu'on voulait évoquer aujourd'hui avec vous. Un grand merci pour tous ces échanges. Vous l'avez vu, et d'ailleurs plusieurs ont fait référence à cela aussi, on est évidemment avec la plupart d'entre vous en contact quasi permanent, que ce soit avec les services, avec les élus, etc. Donc c'est aussi une bonne chose, parce que au-delà effectivement de ces temps un peu institutionnels et formels, il est important qu'on puisse avoir des échanges permanents pour faire évoluer et améliorer les mobilités sur notre territoire. Et en tout cas, croyez bien que la région gouvernementale est fortement mobilisée sur tous ces sujets et ces enjeux d'avenir pour le développement de l'ensemble de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, merci à tous et à très bientôt.